Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus. Vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Il est 6h57 et c'est Apolline Matin qui démarre avec toute l'équipe, tout l'été, avec Charlène Villemeur, la météo dans un instant, avec Victor Pourchet à mes côtés, avec Manu Le Chip qui sera bien sûr avec nous comme tous les jours et avec vous au 32-16. On vous attend, on suit évidemment ce matin le front des incendies. On sera dans le Var avec les pompiers, plus de 2000 hectares brûlés en quelques heures et plusieurs centaines d'habitants évacués. On est près de Draguignan. Vous êtes dans la zone. On vous attend, bien sûr, antenne ouverte, un 32-16 si vous voulez témoigner. On vous donnera les dernières infos dès le début du journal de 7h. Et on passera un coup de fil aux porte-parole des pompiers pour faire le point en direct. Les pompiers qui payent un lourd tribut cet été. Déjà 3 morts en l'espace de 2 semaines. On y reviendra après 8h avec Eric Brocardi qui dénonce une surcharge qui pèse sur les soldats du feu cet été. Si vous êtes pompier, bien sûr, on vous attend aussi au 32-16. Et puis on revient ce matin sur cette scène digne d'un film d'action. Ça s'est passé à Alès, le maire exfiltré de chez lui par les policiers cagoulés du raid. Parce que sous la menace des narcos, de la DZ Mafia, les maires en première ligne face aux narcotrafiquants, même dans les villes moyennes. Mais ont-ils vraiment les moyens de lutter? David Lisnard, qui représente l'association des maires de France, qui préside l'association des maires de France, sera notre invité à 7h40. Et je vous attends là aussi au 32-16. Est-ce qu'on est en train de perdre cette bataille contre les narcos? Est-ce que votre ville est touchée aussi? Vous nous racontez au 32-16. On parlera aussi des réseaux sociaux. L'interdiction aux moins de 15 ans, ça y est, a été votée hier soir, elle va entrer en vigueur au 1er septembre, mais est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on va pouvoir la contourner? On se posera toutes ces questions. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous avez des ados, vous êtes parents, grands-parents, venez nous raconter, est-ce que cette interdiction va vous aider à poser des règles et à éloigner vos enfants des écrans? On vous attend au 32-16. D'abord la météo, Charlène Villemeur, fait encore chaud.
Oui, il fait encore chaud aujourd'hui, notamment dans le sud, mais on a une levée de la canicule, de la vigilance canicule orange, notamment dans le sud-est. Alors il y a encore le risque, un feu de forêt qui reste très présent, notamment pour le Gard, le Vaucluse et puis les Bouches-du-Rhône. Ce matin, les Hauts-de-France se réveillent sous un ciel nuageux avec des brouillards. Quelques gouttes de pluie également sont attendues dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors cet après-midi, pas de changement. Le ciel sera encore nuageux sur les Hauts-de-France. Et le soleil, lui, va encore dominer sur une grande majorité du pays. Côté Mercure, toujours frais au nord ce matin et plus chaud au sud. Les températures, elles grimpent notamment aujourd'hui dans le sud-ouest avec les 35 degrés qui seront dépassés à Bordeaux et à Toulouse. On aura 30 degrés également dans les Pays de la Loire, mais globalement partout ailleurs. Ça commence à baisser, on perd 4 degrés aujourd'hui dans le sud-est. Il fera seulement 35 degrés dans le Var.
C'était la météo sur RMC. Bon réveil avec Apolline Matin.
Bon réveil, merci d'avoir choisi RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Toute l'info, le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Et à la une ce matin, ce feu très impressionnant dans le Var.
Avec un tout dernier bilan, à l'instant, plus de 2500 hectares parcourus par les flammes dans le secteur de Cotignac. C'est le Haut-Var qui brûle. Le feu qui a progressé à très grande vitesse là durant la nuit, jusqu'à 900 pompiers mobilisés. On va faire le point dès le début du journal. La ministre de la Transition écologique est sur le point de démissionner. On va en parler après l'adoption définitive de la loi d'urgence agricole. Hier soir, elle y était opposée. Et puis le Tour de France avec cette passionnante bataille pour le podium au lendemain de la victoire du Belge Remco Evenepoel sur le contre-la-montre.
Les Canadaires reprennent leur rotation ce matin dans le département du Var.
Oui, dans la région du Haut-Var même, qui est touchée donc par ce très violent incendie depuis hier après-midi. Il a pris sur la commune de Pontevès avant de se propager à grande vitesse, nous dit la préfecture, aux communes voisines de Cotignac, Corins, Montfort-sur-Argent. On parlait de quelques hectares brûlés hier après-midi. C'est passé à 1700 hectares durant la nuit. Et ce matin, eh bien, le directeur des pompiers dans ce département du Var, Eric Gouin, parle de plus de 2500 hectares parcourus par les flammes.
La nuit ne fut pas calme puisque le feu a progressé encore toute la nuit. C'était compliqué, ça a été compliqué pour les gens au sol. Il est pour l'instant contenu dans son enveloppe, qu'il progresse plus beaucoup. Néanmoins, nous avons encore de nombreux points chauds, de nombreuses flammes encore dans certains endroits, en espérant que les températures de cet après-midi ne nous fassent pas repartir trop de reprises. C'est pour ça qu'on travaille bien ce matin. Je l'espère une journée calme, mais rien ne le présage.
Matinée donc très importante, hein, vous l'entendez avec ce commandant des pompiers. Jusqu'à 1200 pompiers ont été mobilisés durant la nuit sur ce feu. 2300 foyers se retrouvent ce matin sans électricité. Et 400 personnes ont été évacuées indésirables. Des habitants qui ont dû fuir leur maison en voyant les flammes arriver tout près de chez eux. C'est ce que nous raconte Célestin Bougère.
En quelques minutes, la situation se complique autour de la maison de Nicole. Elle habite à Sillan-la-Cascade, au milieu d'un bois.
Quand je suis allée au bout de mon terrain, j'ai vu que la fumée était vraiment très très proche.
Elle reçoit alors un message de la préfecture sur son téléphone. Il faut évacuer au plus vite.
L'instinct de survie nous envahit et on se dit, bon ben, on s'en va. Je suis partie en pleurant parce que ben, j'ai mes poules là-bas, donc j'ai tout ouvert, en espérant qu'elles puissent s'échapper. Je ventre serré, je reste impuissante. On ne sait pas si la maison a brûlé.
Tout juste le temps d'arroser les murs de sa maison avant d'être accueillie chez des amis. Dans le village voisin de Cotignac, les Canadaires passent au-dessus de la tête de Philippe. Les flammes se rapprochent de sa maison où il est alors confiné.
Je suis ému parce que quand vous voyez cette fumée en haut des collines qui monte, qui arrive en haut de votre maison, puis se dire comment on va retrouver ce bastion qui est tellement magnifique, je n'ose même pas imaginer quoi. C'est terrible pour nous.
Certaines habitations ont été détruites. Le maire de Cotignac, Jean-Pierre Véran, se sent impuissant.
Je ne sais pas comment on va s'en sortir parce que les pompiers, au niveau des accessibilités, c'est dur et on croise des doigts pour que le vent ne souffle pas trop pour que ça baisse.
Un camping et un monastère ont également été évacués dans ce village.
Et on vous attend au 32-16 si vous êtes dans la région, dans ce département du Var, si vous voulez témoigner. Bien sûr, on vous ouvre l'antenne 32-16. Vos messages sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Et on passera un coup de fil juste après le journal à l'un des représentants des pompiers qui est sur place pour un point en direct.
Les pompiers qui sont encore endeuillés avec la mort hier de deux sapeurs en Gironde durant une intervention sur un incendie. C'était près de l'aéroport de Mérignac. Leur camion de citerne, en fait, de ces pompiers s'est retrouvé piégé par des flammes haute de 20 à 30 mètres. C'est ce qu'explique le directeur des pompiers dans ce département de Gironde.
Et il est 7h04 et vous êtes sur RMC. Il y a donc du nouveau ce matin dans l'affaire Jubilard.
Après les aveux, Cédric Jubilard a expliqué comment il avait tué son épouse Delphine Jubilard il y a 6 ans, une nuit de décembre dans leur village du Tarn. Jean-Louis Forquès, vous êtes en direct ce matin pour RMC de la cour d'appel de Toulouse, où Cédric Jubilard a donc été interrogé il y a une semaine par la juge d'instruction dans cette affaire.
Oui, c'est ça, Quentin. Cédric Jubilard raconte à la magistrate que c'est une nouvelle dispute, la énième dispute avec Delphine. Le ton monte très rapidement ce soir-là. Delphine lui dit « Tu n'es qu'un toxico de merde, tu es une sombre merde, j'ai trouvé un type qui est beaucoup mieux que toi ». Cédric Jubilard réplique à la juge qu'à ce moment précis, tout ça, ça l'a fait complètement dégoupillé. J'ai serré son cou très très fort et je lui ai dit, répété, tais-toi, je l'ai dit 20 fois, 30 fois, 50 fois peut-être, j'ai serré très fort et elle est tombée au sol inerte. Ensuite, je l'ai prise, je l'ai mise dans la voiture et je suis allé dans le champ, je me souvenais, dans ce champ du monticule de compost. Voilà pour la version donc officielle, la version qu'il a donnée ici à la magistrate à Toulouse. Une seule question, y a-t-il eu préméditation? La magistrate a quelques mois pour faire toute la lumière sur ce point très précis du dossier. Le procès qui était prévu le 21 septembre prochain a été repoussé au premier semestre 2027.
Jean-Louis Forquès en direct de Toulouse ce matin pour RMC. C'est l'indignation ce matin à Alès, dans le Gard. Alès, où le maire a été exfiltré donc de son domicile dans la nuit de lundi à mardi. Le raid carrément qui est venu le chercher, menacé par les narcotrafiquants de la DZ Mafia. Maxime Clieruza, vous êtes dans cette ville d'Alès pour RMC, avec des habitants vraiment choqués par la tournure que prend le combat contre la drogue.
Oui, après les menaces, les habitants comme Grégory prennent cette exfiltration très au sérieux.
On a été quand même très scandalisés, parce que c'est quand même, je pense, une marche qui est franchie, bien que durant ces derniers mois, quand même, on voyait que le maire était très impliqué dans cette lutte, et on voyait pas mal de CRS passer, pas mal d'interpellations.
Mais ce n'est pas suffisant pour certains qui attendent plus de moyens de l'État pour lutter contre le trafic de drogue et l'implantation de la DZ Mafia dans leur ville. C'est ce qu'explique François, qui apporte son soutien sans faille au maire.
Alors c'est très grave, il faut que le maire continue à se battre, faut qu'il se fasse aider peut-être, mettre plus de moyens de police, embêter un peu plus les trafiquants peut-être.
Contacté par RMC, le maire de la commune dit ne pas craindre pour sa vie mais pour celle de ses proches. Des administrés comme Nicole s'interrogent sur la suite.
Je souhaite pour lui qu'il soit protégé. Et la question c'est comment il va pouvoir avoir suffisamment les mains libres, continuer à exercer sa fonction de maire. Hein. C'est pas évident pour lui. Parce que, qu'est-ce que c'est la perspective? Il va rentrer chez lui, il va être sous protection policière constamment.
Si pour l'heure, le maire, Christophe Rivinck, se trouve hors d'Alès et sous protection policière, il l'assure, il reste à la tâche et au service des Alésiens.
Et condamnation au sein du gouvernement des ministres de l'Intérieur, de la Justice, c'est une atteinte grave à la République. Voilà ce que déplore Gérald Darmanin. Le gouvernement qui va voir une de ses membres claquer la porte, certainement ce matin, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, qui doit présenter sa démission avant le Conseil des ministres qui aura lieu dans la matinée. Pourquoi ? Eh bien, c'est en raison de l'adoption définitive hier au Sénat du projet de loi d'urgence agricole. Il y avait l'ultime vote donc de la part des sénateurs. Ce texte qui réintroduit deux pesticides interdits pour certaines filières en difficulté. Elle y était opposée, Monique Barbu, et elle a donc décidé de s'en aller.
Et ce n'est pas tout. Dans cette dernière ligne droite avant les vacances politiques, les députés et sénateurs ont définitivement adopté 6 textes, dont plusieurs projets de loi emblématiques.
Dont on a beaucoup parlé sur RMC. Alors, en plus du projet de loi d'urgence agricole, ils ont adopté un texte sur la montagne, un autre sur le sport professionnel qui encadre la redistribution des droits télé, sur l'immobilier de l'État aussi, sur la sécurité du quotidien, c'est la fameuse loi Riposte qui durcit les sanctions en cas de rodéo urbain ou de free party. Et donc, ce projet de loi qui interdit les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. C'est une première, tout simplement, en Europe. Elle est censée entrer en vigueur en septembre. Mais on se demande comment ça va bien pouvoir se mettre en place, Bérangère Bocquillon.
Si vous vous inscrivez pour la première fois sur un réseau social, vous allez devoir prouver que vous avez plus de 15 ans via un tiers de confiance, comme France Connect par exemple. Mais si vous êtes déjà inscrit, le réseau social aura jusqu'au 1er janvier pour vérifier votre âge. Tous les réseaux sociaux seront concernés et pour des plateformes comme YouTube ou WhatsApp, les moins de 15 ans pourront visionner une vidéo ou participer à un groupe de discussion privée, mais plus possible pour eux de se rendre sur des pages avec partage de vidéos et commentaires. Et si un réseau social ne respecte pas l'interdiction aux moins de 15 ans, il sera passible d'une amende qui pourra aller jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires.
Et qu'en pensez-vous de cette loi qui va donc interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ? On vous attend pour en débattre au 32-16. Vous êtes parents, vous êtes grands-parents. Comment est-ce que vous gérez l'accès de vos ados aux réseaux, aux écrans ? Est-ce que ça va vous aider, finalement, cette interdiction officielle à poser des règles ? Ou est-ce que vous craignez qu'elle soit tout simplement contournée ? On en débat ensemble au 32-16 et on en reparlera avec notre invité après le journal.
Et on reste dans la thématique avec le parquet de Paris qui ouvre donc une enquête après au moins 3 piratages qui ont visé hier le rassemblement national. Tiphaine Dubeur, vous avez des précisions pour RMC, on sait que des données ont été volées.
Première cible de ces attaques, les serveurs informatiques du Rassemblement National. Hier, un cybercriminel revendique le vol des données de 1000 responsables du parti. De son côté, le RN, qui dénonce une tentative malveillante, évoque une fuite de données limitée à un candidat aux élections municipales et à ses colistiers. La fuite concernerait des documents d'identité. Des dossiers de travail interne au parti auraient également été dérobés. Peu après, c'est au tour du compte X de Marine Le Pen d'être piraté. Un post publié avant d'être supprimé fait la promotion d'une crypto-monnaie au nom de la chef du RN. Dernière attaque, le site internet du parti où la photo de Marine Le Pen est remplacée par un chat aux couleurs du Maroc et de l'Algérie. Pour l'heure, aucun lien n'a été établi entre ces différentes attaques numériques.
Bon, et puis c'est un Belge qui a gagné le contre-la-montre au bord du lac Léman hier sur le Tour de France, le jour d'ailleurs de la fête nationale belge. Remco Evenepoel qui remporte donc 2 étapes d'affilée et qui en profite pour conforter sa 2e place au classement général derrière le maillot jaune Tadej Pogacar.
Il y a encore quelques étapes très très dures qui arrivent, donc c'est très beau que je gagne 2 fois d'affilée, mais là je dois me concentrer sur garder ma 2e place et me battre pour cela. Pour moi c'est déjà un rêve d'être où je suis, il faut continuer à travailler.
Et vous ne manquerez rien, effectivement, de l'étape du jour dans l'intégral tour sur RMC, la 17e. 174 km entre Chambéry et Voiron, en passant par le massif des Bauges et celui de la Chartreuse.
Cette fois, c'est la fin du journal de Quentin Vinet. Il est 7h10 sur RMC et on va retourner dans le Var en direct faire le point sur cet incendie très impressionnant qui a ravagé plus de 2500 hectares depuis hier soir autour de Pont-Évès. On est à l'ouest de Draguignan. Bonjour, commandant William Vogel.
Oui, bonjour.
Vous êtes le responsable de la communication des pompiers du Var. Où est-ce qu'on en est ce matin ? Est-ce que les rotations aériennes reprennent ? Les pompiers ont lutté toute la nuit contre les flammes ?
Effectivement, donc la situation cette nuit a été très compliquée. On avait environ 1100 sapeurs-pompiers qui ont lutté activement toute la nuit contre ces flammes. Le jour vient de se lever donc sur la commune de Pont-Évès, Cotignac, Montfort, Corrence, donc les différentes communes qui sont touchées par cet incendie. Comme le jour vient d'arriver, le balai des canadaires va également reprendre. Donc, durant la matinée, on va avoir de nombreux moyens aériens qui vont nous épauler dans cette lutte contre le feu de forêt.
Est-ce que vous avez un bilan à jour ce matin ? Est-ce qu'il y a des victimes ? Est-ce que des habitations ont été touchées ?
Alors le bilan va devoir être consolidé hein, parce que la nuit, effectivement, les conditions de lutte sont difficiles, les conditions d'analyse et de dimensionnement du sinistre sont là aussi fortement compliquées. On comptabilisait environ 2500 hectares de brûlés avec plusieurs habitations impactées. On va affiner là rapidement avec notre hélicoptère, nos avions, cette comptabilisation de manière à pouvoir vous faire un détail un peu plus précis d'ici les prochaines minutes.
Ces zones habitées, elles sont toujours menacées. Ce matin, on sait que plusieurs centaines de personnes ont déjà été évacuées.
Effectivement, donc préventivement, nous avions fait évacuer plusieurs centaines de personnes, donc sous l'autorité de Monsieur le Préfet du Var et des différents maires des communes impactées. Donc de l'anticipation avait été réalisée. Cependant, effectivement, on dénombre malheureusement sur certains secteurs plusieurs habitations. Aujourd'hui, donc les sapeurs-pompiers sont présents hein, cette nuit aussi dans la plupart des quartiers. Cependant, le feu n'est pas fixé, donc les lisières sont actives et les risques sont encore bien présents.
Ça veut dire que ces habitants, ce matin, ne peuvent toujours pas rentrer chez eux.
Alors, comme je disais tout à l'heure, maintenant, il va falloir vraiment affiner commune par commune, quartier par quartier. Mais effectivement, il y a plusieurs secteurs où nous recommandons aux gens de ne pas rentrer chez eux.
On a déjà des éléments sur l'origine de cet incendie ?
Alors, il y a une enquête qui est en cours hein, sous l'égide de Monsieur le procureur de la République. Nous, sapeurs-pompiers, vous doutez bien qu'à cette heure-là, on est vraiment dans des opérations de lutte. Mmh. Et donc, on laissera Monsieur le procureur communiquer ultérieurement sur les causes éventuelles de l'incendie.
Vous disiez plus de 1000 pompiers mobilisés cette nuit. Ils restent sur la zone pour cette journée. Combien de moyens aériens vous avez également à disposition ?
Alors, le balai des moyens aériens va démarrer là dans quelques minutes. On va affiner ça. Là-dessus, on a deux Canadair donc qui sont en train d'arriver tout de suite. Mais ce matin, il faut vraiment qu'on en profite parce que les températures sont un petit peu plus fraîches que hier. Le vent n'est pas établi. Donc, c'est vraiment sur le matin qu'on va pouvoir traiter un maximum ces lisières.
Vous attendez à une journée avec de nouveau de la chaleur et du vent là dans les heures qui viennent ?
Alors effectivement, cette vague de chaleur, elle est toujours présente sur le département. Cependant, le vent devrait être un petit peu plus favorable. Mais le travail va rester quand même compliqué et important pour les pompiers au sol.
Merci beaucoup. Merci pour ce point en direct, commandant William Vogel, responsable de la communication des pompiers du Var. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. On pense à tous ces pompiers qui sont encore sur le terrain ce matin. Il est 7h14.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Les réseaux sociaux fermés aux moins de 15 ans. L'interdiction a donc été votée hier soir au Parlement. La France devient le premier pays en Europe à prendre une telle mesure. Mais l'appliquer au 1er septembre, comme annoncé, est-ce faisable ? Comment va-t-on vérifier l'âge des utilisateurs ? Bon, beaucoup de questions. Bonjour Marie-Caroline Missire.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre ce matin. Vous êtes la déléguée générale du think tank Vers le Haut. Vous aviez participé à la commission écran il y a 2 ans, commission mandatée par Emmanuel Macron. Et vous estimez ce matin que cette interdiction est d'une grande hypocrisie. C'est votre parti pris. Vous allez nous l'expliquer dans un instant. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Vous êtes bien sur RMC Story, il est 7h17. Les moins de 15 ans vont donc devoir supprimer TikTok, Instagram et les autres réseaux sociaux. La France est devenue hier soir le premier pays d'Europe à voter l'interdiction totale des réseaux aux moins de 15 ans. Cette mesure doit s'appliquer au 1er septembre. On va voir si c'est faisable et surtout si ça va être efficace. Bonjour Marie-Caroline Missire.
Bonjour.
Vous êtes donc la déléguée générale du think tank Vers le Haut et vous aviez participé à la fameuse commission écran qui avait été mandatée par Emmanuel Macron, c'était il y a 2 ans, et qui avait rendu des conclusions très claires. Hein. Pas d'écran avant 3 ans, pas de smartphone avant 13 ans et justement pas de réseaux sociaux avant 15 ans. Donc cette loi, elle va dans ce sens-là. Pourtant, votre parti pris ce matin, c'est de dire tout ça est d'une grande hypocrisie, ça ne marchera pas. Pourquoi ?
Alors, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce qui s'est passé en Australie. Souvenez-vous, à partir du mois de décembre dernier, ce pays a pris une mesure similaire. Et il y a une étude qui a été publiée il y a quelques jours, dans une revue très sérieuse, sur 400 adolescents suivis et qui ont fait l'objet d'une interdiction. Eh bien, le avant-après montre que après cette interdiction, en réalité, les usages de ces jeunes adolescents australiens ont même augmenté pour les plus de 16 ans. Donc ça pose la question effectivement de toute une stratégie de contournement, d'accès dont on connaît tout à fait les possibilités. Donc ça, c'est un premier point d'interrogation. Et puis je le rappelle, dans le cadre de nos travaux de la commission écran, nous avions parlé de limiter l'accès aux réseaux sociaux qui ne sont pas éthique, en se donnant l'ambition qu'on pouvait quand même imaginer, notamment en Europe, des réseaux sociaux qui protègent les données des enfants, qui les épanouissent, etc. Et ça, je me souviens, ça avait fait beaucoup sourire, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet très sérieux et on peut quand même avoir cette ambition.
Différencier les réseaux sociaux autorisés des autres.
Ça, et on c'était sait que précisément ça a fait débat et que Sénat, ce que le Sénat s'était employé à faire. Vous vous souvenez, il y avait une liste de plateformes qui a disparu dans la version finale de la loi.
Parce que le gouvernement estime que ce serait contraire au droit européen. Je reviens sur ce que vous disiez, les stratégies de contournement. Ça veut dire que même avant 15 ans, aujourd'hui, nos ados, ils sont suffisamment malins et agiles sur ces outils numériques pour contourner, en fait, même ces vérifications d'âge.
Alors, soyons clairs, personne, et moi la première, ne remet en cause l'intérêt supérieur de l'enfant et la nécessité de les protéger. Mais ce qu'on dit, précisément, au-delà des possibilités de contournement des aspects techniques que pose cette loi et qui sont encore largement devant nous, c'est qu'on ne peut pas avoir des mesures d'interdiction pour une catégorie de la population, et en l'occurrence les jeunes, sans des mesures d'éducation. Et je pense que l'exemple australien le montre très bien. Le volet accompagnement, sensibilisation, la responsabilisation des parents est absolument essentiel pour faire en sorte qu'on ait finalement un accès éclairé, un discernement des jeunes dans l'utilisation de leurs réseaux sociaux.
Qu'est-ce que c'est vous aviez proposé, par exemple? C'est une éducation au numérique à l'école, par exemple, des choses comme ça?
L'éducation numérique à l'école, elle existe. Ça s'appelle l'éducation aux médias, notamment. Ça doit être absolument largement renforcé. Ça doit être connecté avec le monde réel dans lequel les adolescents vivent. Est-ce qu'on parle assez des dangers des réseaux sociaux? Est-ce qu'on parle assez aussi du fonctionnement du cerveau, de la manière dont ces algorithmes viennent capter l'attention? Enfin, je crois que c'est un sujet qui ne concerne pas que les jeunes. Encore une fois, imaginons qu'on stigmatise une partie de la population, qu'on se dise, tiens, à partir de 62 ans, vous n'avez plus le droit d'utiliser les réseaux sociaux. Mais comment réagirait-on? Est-ce qu'on peut se figurer que là, on a un accès brutal avec cette loi qui est coupée à une catégorie de la population? Pour le coup, je trouve que la position de la Commission européenne qui nous dit nous allons vers des mesures graduées qui correspondent tout à fait aux recommandations de la Commission, et merci de les avoir citées, sont beaucoup plus en accord avec ce que l'on peut espérer pour un pays comme le nôtre d'ambition pour sa jeunesse. Accompagnons-les, protégeons-les et mettons l'éducation au cœur de notre projet. Les parents sont les premiers utilisateurs de leur smartphone, c'est ce que nous disent les jeunes.
C'est ce que j'allais vous demander, est-ce qu'il faut aussi éduquer les parents?
Mais absolument. Quand on écoute les jeunes, et là ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est que dans ce processus d'élaboration de la loi, à aucun moment on a associé les jeunes. Pourtant, c'est faire dans notre pays. Il y a un conseil économique et social, il y a des assemblées, enfin, on aurait pu le faire, ça aurait même été un excellent coup de com' par ailleurs. Aucun moment on n'a entendu la parole d'un jeune. Mais quand vous prenez la peine de les interroger, comme c'est le cas dans notre think tank Vers le Haut, eh bien, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, moi, on m'interdit mes réseaux sociaux, mais qu'est-ce qui se passe à la maison? Quand j'essaye d'avoir une interaction avec mes parents, quand je suis à table, tout le monde regarde son téléphone. Et là, il y a un phénomène qui est très mal connu et il faut en parler, qui s'appelle la technoférence. Il y a une étude qui a été publiée par Bayard il y a quelques semaines qui dit qu'effectivement, utiliser son portable quand on est un parent, regarder son portable, au lieu d'avoir une interaction avec son enfant, ça a des conséquences délétères sur son développement.
Donc les parents doivent être les premiers à montrer l'exemple en quelque sorte.
Il faut avoir un projet éducatif collectif et on ne peut pas se satisfaire d'une interdiction qui ne va pas régler. L'État ne peut pas être délégataire d'une responsabilité parentale.
Victor, il y a des messages sur le WhatsApp RMC, ça fait pas mal réagir quand même cette interdiction.
Et réagir dans les deux camps, on a Christian qui lui voudrait aller encore plus loin. Ces réseaux sociaux doivent être gérés, interdits ou autorisés par l'État, et il aimerait que maintenant ce soit les établissements scolaires qui prennent en charge cette éducation notamment et cette interdiction. Et puis on a Chamé qui nous dit une loi ne sera jamais aussi malin qu'un enfant, il suffit que les parents, et c'est son idée à lui, c'est ce qu'il propose, donnent et priorisent un téléphone sans connexion internet, que ça rentre dans nos usages pour limiter effet des réseaux sociaux.
C'est vrai que ces outils existent aussi. Est-ce que cette interdiction, elle va pas malgré tout aider certains parents à poser des règles en famille? C'est la loi désormais, c'est peut-être plus facile d'expliquer à un enfant que c'est la loi et qu'en dessous de 15 ans, il ne veut pas s'inscrire à un réseau social.
Je pense que les adolescents grandissent aujourd'hui dans un monde numérique. Les enfants grandissent dans un monde numérique. Donc l'ensemble de la société a besoin de repères. a besoin de repères éducatifs. Un exemple très simple, dans le carnet de santé, dès la naissance d'un enfant, il faut effectivement parler aux parents de ce que je disais tout à l'heure, les phénomènes de technoférence, parce qu'on est dans un monde numérique. Donc en ce sens-là, effectivement, la prise en charge par l'État de cette réalité, qui ne date pas d'hier, hein, on a eu la majorité numérique, on a eu plusieurs dispositifs, extrêmement importante. Sur le volet éducation nationale, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent déjà, j'ai cité l'éducation aux médias, la formation numérique, mais il y a encore beaucoup à faire. Ce qui me dérange ici, c'est qu'on n'a pas une ambition éducative globale. Il faut vraiment se dire, on est tous concernés. On est tous
adultes, parents et enfants. Merci beaucoup. Merci d'être venu ce matin sur le plateau d'RMC. Marie-Caroline Missire, déléguée générale du think tank Vers le Haut, ancienne membre donc de cette commission écran. Ça vous fait réagir, on vous attend, bien sûr. Vous avez tous la parole, on en débat ensemble au 32-16. Il est 7h25 sur RMC. Dans un instant, l'économie. L'économie avec Emmanuel Le Chypre. On parle des augmentations de salaire ce matin. On a des bonnes nouvelles ou pas?
Elles sont pas terribles. Mais j'ai quand même une très bonne nouvelle, vous allez voir.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
7h26 sur RMC, l'économie.
RMC,
le chiffre du jour.
Le chiffre du jour, Emmanuel, le chiffre, c'est 2%. C'est l'augmentation que les entreprises vont accorder à leurs salariés cette année.
Oui, 2%, ce sera légèrement moins que les 2,1% accordés en 2025, nous dit l'Observatoire des rémunérations LLH. Les perspectives économiques sont incertaines. Le climat social est plus tendu que l'an dernier. Il y a 27% des entreprises qui connaissent plus de tensions sociales qu'en 2025 à la même époque. Dans ce contexte, les augmentations générales vont rester largement utilisées pour les salariés les moins rémunérés. Elles concentrent entre 60 et 70% des entreprises, ces augmentations. Il y a aussi un nombre record d'augmentations individuelles, mais ça c'est pour les cadres, puisque quasiment 98% des entreprises augmenteront les cadres à titre individuel. Alors oui, 2%, ça fait pas beaucoup de pouvoir d'achat en plus, sachant que 17% seulement des entreprises ont attribué, vous savez, la fameuse prime de partage, anciennement appelée prime Macron, prime de partage de la valeur pour un montant moyen de 660 €, ce qui confirme la tendance à la baisse déjà observée l'an dernier.
Alors on peut se consoler avec une info ce matin, c'est qu'aujourd'hui c'est le jour de la libération fiscale.
Exactement. Vous savez que la France est championne du monde des prélèvements obligatoires. La fiscalité sur le salarié moyen, elle est aujourd'hui de 55,6% lorsqu'on tient compte de toutes les cotisations sociales, de l'impôt sur le revenu et de la TVA, nous dit l'Institut Molinari. Donc une fois qu'on a payé ces 55,6% de charges sur nos revenus, eh bien ça correspond à quoi? Ça correspond à la date du 22 juillet. Et donc c'est à partir d'aujourd'hui seulement que nous travaillons véritablement pour nous.
On a travaillé tout le reste de l'année pour l'État.
Jusqu'à maintenant, nous n'avons travaillé que pour payer nos cotisations sociales et nos impôts. Donc voilà, fêtons dignement ce 22 juillet. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est quand même 4 jours plus tard que l'an dernier.
Ah.
Voilà, et oui, parce que nos cotisations et nos impôts ont augmenté.
Merci Manuel Le Chypre, on se retrouve juste après 8h, 7h28 dans un instant, la météo et le journal. RMC 7h30.
RMC, Apolline Matin.
Un nouveau journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Les pompiers endeuillés en Gironde. Deux sapeurs ont perdu la vie hier sur un incendie près de l'aéroport de Mérignac. Pompiers également mobilisés sur un incendie dans le Var. Plus de 2500 hectares parcourus en moins de 24 heures. Cédric Jubilard livre sa version des faits, des aveux et des détails inédits sur le soir de la disparition de sa femme Delphine. Et après les contrôles de nuit, le peloton du Tour de France s'interroge sur le message envoyé par les autorités antidopage.
D'abord, cet incendie mortel en Gironde.
Deux pompiers sont décédés hier en pleine intervention près de l'aéroport de Mérignac, pris au piège par les flammes. Et notre correspondant RMC en Gironde, Pierre Bourgès, s'est rendu sur place.
À la lecture de son compte-rendu d'intervention, Marc Vermeulen, directeur des pompiers de Gironde, tente avec difficulté de cacher son émotion.
Donc à 14h08, donc ce jour, nous sommes intervenus pour un très violent feu de forêt.
10 minutes plus tard, les premiers pompiers sur place sont ceux de la caserne de Saint-Médard-en-Jalles, commune voisine de Bordeaux. Face à eux, un immense feu de pin, des flammes de plus de 20 mètres de haut, dont le panache de fumée recouvre les usines, les maisons et l'aéroport qui a dû interrompre son trafic.
Accompagné de vent tournant, la situation était très défavorable. Charles. Unité d'intervention de feu de forêt a vu l'un de ses camions armé par deux sapeurs-pompiers professionnels piégé pour une raison qu'il appartient désormais à l'enquête de préciser. Nos deux collègues sont décédés.
Si les 120 pompiers sur place sont venus à bout des flammes en quelques heures, seuls 118 sont rentrés chez eux hier soir. Une journée noire pour Jean-Luc Glaise, président du département.
C'est une journée terrible, c'est un drame, le pire drame qui peut arriver à un corps de sapeurs-pompiers. Ce sont aujourd'hui tous les sapeurs-pompiers de Gironde qui sont en deuil et tout le conseil d'administration du SDIS également.
Une enquête a été ouverte par le parquet de Bordeaux pour déterminer l'origine de l'incendie.
Et 1200 pompiers mobilisés dans le Var. Un incendie hors de contrôle a progressé à une vitesse fulgurante ces dernières heures et menace de nombreuses communes, Cotignac, Montfort-sur-Argent, Corrence. Plus de 2500 hectares ont été ravagés depuis hier par les flammes. Le feu est désormais contenu et ne progresse plus. Les Canadair viennent de reprendre du service pour épauler les pompiers. L'angoisse pour des milliers d'habitants, 400 ont dû être évacués, notamment Stéphanie qui possède une ferme.
Quand je suis rentrée, en fait, il y avait comme une pluie de cendres. Et quand on est arrivé dans le chemin, en fait, on voyait le début de flamme et on voyait une grosse bouche à fumer. Et on a tous les copains qui sont arrivés pour évacuer tout le monde, les bétaillères qui sont arrivés. On a eu un monsieur qui est venu avec un camion qui nous a chargé toutes les chèvres. Là, je démoralisais. Alors, pour l'instant, on sait rien. Donc, le plus dur, en fait, c'est de pas savoir. Et en fait, on s'est même pas dit, on a encore une maison. C'est horrible. Moi, j'ai pleuré pendant plus d'une heure. Non, ça a été horrible. Mais vraiment. Mais franchement, je ne souhaiterais pas mon pire ennemi.
2300 foyers, toujours privés d'électricité ce matin et de nombreuses routes coupées à la circulation.
RMC, il est 7h33. Les paroles glaçantes à présent dans l'affaire Jubilard.
Cédric Jubilard a raconté devant la justice mercredi dernier le moment où tout aurait basculé avec son épouse Delphine avant de donner des indications sur l'endroit où il affirme avoir caché le corps. Et Constance Bostoen, il a également donné des précisions sur ses motivations.
Cédric Jubilard raconte que ce soir-là, avec sa femme, le ton monte, les insultes fusent. Elle m'a dit « T'es qu'une merde, je fais bien de me barrer, personne ne voudra de toi », raconte le peintre plaquiste qui ajoute avoir pété les plombs quand sa femme lui lance « Maintenant, je peux te l'avouer, j'en ai trouvé un qui me fait mieux l'amour que toi ». Cédric Jubilard assure ensuite l'avoir attrapé par le cou, avoir serré pour qu'elle se taise, dit-il, avant de charger le corps inerte de l'infirmière dans sa voiture, descendre la rue au point mort pour, je cite, « ne pas réveiller les voisins ». Je me suis retrouvé route de corde sur ciel. Je me souvenais avoir vu des monticules de terreau, monticules qu'il creuse avec ses mains avant d'enterrer le corps puis de rentrer chez lui, selon son récit. J'ai réalisé que j'avais commis quelque chose d'abominable, conclut-il avant d'ajouter, avec la pression, je ne savais pas comment faire pour me sortir de mon mensonge.
Des aveux au goût amer, selon l'avocat de la cousine de Delphine, Philippe Pressec.
J'ai le sentiment que Cédric Jubilard aujourd'hui vient de tuer deux fois sa femme. Ben finalement, c'est la faute de sa femme, c'est elle qui l'a agressé, qui a été méchante avec lui encore une fois. Donc de toute façon, rien ne tient à ce qu'il raconte. S'il avait eu la sensation de l'horreur de son geste, jamais il ne serait allé jeter son épouse qui venait de tuer par inadvertance sur l'écoute dans un tas de fumier à 10 minutes de la maison. C'est pas comme ça qu'on réagit. Je crois que tout simplement, il était allé sur les lieux reconnaître ce tas de fumier. Donc je pense que tout ça a été prémédité.
Ces aveux ont conduit la justice à reporter son procès en appel devant la cour d'assises de Haute-Garonne, prévu initialement en septembre. Il débutera finalement au plus tard en avril 2027.
7h35, on part sur le Tour de France avec ses contrôles antidopage qui font beaucoup parler.
Le maillot jaune, Tadej Pogacar et Vingegaard ont été ciblés par des contrôles antidopage nocturnes avant une nouvelle vague de tests lundi. Une séquence qui pose une question brûlante. Kevin Morand, le cyclisme est-il à nouveau rattrapé par le doute?
Oui, l'ITEA, l'organisme indépendant en charge de l'antidopage dans le cyclisme, a déployé un gros dispositif lundi. Toutes les équipes ont reçu la visite en fin de journée de contrôleurs.
J'en ai eu un à 21h30. Pour l'anecdote, on était en train de jouer à la pétanque.
Baptiste Westrofer, coureur de la Loto Intermarché.
On a eu 3 contrôles aléatoires durant le tour. On doit être aussi conscient, voilà, qu'il faut avoir une éthique et faire tout pour rendre notre sport clean. Pour moi, c'est aucun problème.
Une vague de contrôle qui fait suite à ceux subis en pleine nuit par Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard le week-end dernier, autorisé par un juge des libertés de la détention. Sur cette plage horaire qu'en cas de soupçons graves et spécifiques, le consultant RMC Jérôme Pinault déplore la communication autour de ces contrôles.
En gros, c'est on a contrôlé tout le monde, mais ces deux équipes-là sont suspectes. Donc dans la tête des gens qui sont sur le bord de la route, ces deux coureurs-là ont triché ou sont potentiellement des tricheurs. Et ça, c'est pas bon.
Marc Madiot, le président de la Groupama FDJ United, s'interroge aussi.
Est-ce qu'il y avait vraiment des raisons concordantes qui font que, ou est-ce qu'on a voulu faire un exemple en disant, vous voyez, on est capable de contrôler même les meilleurs. Si c'est le cas, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas poussé le bouchon jusqu'à en contrôler une dizaine.
Les coureurs coureurs sont contrôlés à l'improviste au moins une fois par semaine sur le Tour de France et quotidiennement pour se présenter sur le podium.
Et vous l'avez vécu hier sur RMC, la victoire d'Evenepoel sur le contre-la-montre entre Evian-les-Bains et Thonon-les-Bains devant Pogacar. Le Français Paul Sexas termine quatrième et grappille de précieuses secondes au général et se rapproche de la troisième place. Place aujourd'hui à la 17e étape entre Chambéry et Voiron, étape longue de 174 km. Et c'est bien sûr à suivre dès 14h sur RMC.
On termine avec le quintet, c'est à Enghien aujourd'hui à 18h30.
Le pronostic de la Dream Team, leur favori le 9, Montana Kaluma, leur outsider et le 10, Mercurdel.
C'était le journal de Clément Gouitz, il est 7h37, vous êtes bien sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on part au 32-16 avec Sébastien qui est avec nous depuis la Haute-Garonne. Bonjour Sébastien.
Salut tout le monde.
Bienvenue à vous. On parle des réseaux sociaux ce matin, cette interdiction votée pour les moins de 15 ans qui s'appliquera à partir du 1er septembre. Je vois que vous avez trois enfants, Sébastien. Comment est-ce que vous faites, vous, avec les écrans? Il y a des règles à la maison?
Alors, bon, mais déjà, j'ai trois gamins. La première a 24 ans, voilà, donc c'est un peu, voilà, maintenant elle se gère. Le deuxième a 18 ans, le dernier a 11 ans, donc c'est surtout par rapport à lui que j'appelle. Déjà, moi, je suis entièrement d'accord avec cette loi. Je pense qu'un gamin, en dessous de 15 ans, les réseaux sociaux, ça doit être banni. Ensuite, moi, comment je fais? Ben, écoutez, il y a 20 ans ou 23 ans en arrière, c'était pas forcément pareil. Le gamin qui a 18 ans, eh ben, lui, il est un peu plus accro au téléphone. Et j'ai pas forcément fait ce qu'il fallait, ou du moins, j'étais moins regardant. C'est pour ça qu'on ne refait pas, on va dire, deux fois les mêmes erreurs. Et avec le petit, mais maintenant, avec ma femme, on est entièrement d'accord. Les réseaux sociaux, moins de 15 ans, c'est strictement interdit.
Ça veut dire qu'il a un téléphone à 11 ans ou pas encore?
Si vous voulez, il est rentré en 6e, il a un téléphone. Il est rentré en 6e pour qu'on puisse le joindre. Par contre, il n'a aucun réseau social. On lui a bien dit. Et c'est pour ça, je pense que c'est invérifiable et infaisable d'interdire les réseaux sociaux aux gamins. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si le gamin va tout seul le faire, il peut mentir sur sa date de naissance. Il y a malheureusement, on vit dans un monde où il y a certains parents qui sont pas forcément regardants sur certaines choses. Et en fait, ils vont mentir sur la date de naissance. Et là, le gamin, même s'il a 12 ans, 13 ans, il pourra automatiquement avoir accès aux réseaux sociaux.
Alors, on va pas seulement lui demander la date de naissance. Il va falloir quand même une forme de justificatif. Mais effectivement, on peut demander aux grands frères. Parfois, voilà. les parents vont aussi les autoriser. Votre enfant, du coup, n'a aucun réseau social. Vous êtes sûr qu'il ne contourne pas aujourd'hui?
Ah oui, non. Alors là, je peux vous assurer que c'est sûr parce qu'on a, non, ça c'est clair et précis déjà parce que nous, on vérifie déjà tous les jours, voilà. Il n'a aucun réseau social. Il n'a fait un réseau social Facebook, là, TikTok, ces trucs-là. WhatsApp, Snapchat, tout ça. Il n'a rien du tout.
Bon, vous y arrivez,
La seule chose qu'il a, qu'on lui a mis là aujourd'hui, c'est Spotify. Et encore il avait Spotify pour les enfants. Et maintenant, on lui a mis Spotify comme nous.
Merci Sébastien pour votre appel au 32-16. Vous témoignez tous, vous avez la parole à suivre sur RMC. On revient sur ce qui s'est passé pour le maire d'Alès, exfiltré en pleine nuit parce que menacé par les narcotrafiquants. Les maires en première ligne, on en parle dans un instant. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h41 et vous êtes sur RMC. Une scène digne d'un film d'action. Un maire exfiltré de chez lui par les policiers cagoulés du raid car menacé par les narcos de la DZ Mafia. Ça n'est pas un film, c'est bien la réalité à Alès, dans le Gard. Et ce maire, c'est Christophe Rivinck, menacé à plusieurs reprises par les narcotrafiquants. Les maires en première ligne, y compris dans les villes moyennes. Bonjour David Lisnard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous présidez l'association des maires de France. Vous avez aussi déclaré votre candidature à la présidentielle. Restez avec nous. On va parler des maires dans un instant. Je me tourne d'abord vers vous, Jean-Michel Verne. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur du livre Inside des aides mafia au cœur du gang narco-mafieux. Un maire exfiltré de son domicile parce que les services de renseignement, en l'occurrence, craignaient une voiture piégée. On en est là. Qu'est-ce que ça dit de la puissance de ces réseaux aujourd'hui?
Si vous voulez, il y a eu une évolution. On est parti dans les années 2014-2015, on parlait de narco-banditisme. On a vu que les cités commençaient à prendre un pouvoir considérable. Puis, les choses se sont vraiment dérapé à partir de 2023 avec l'apparition du sigle DZ Mafia et de la diffusion de vidéos. Je pense notamment au début de cette année-là, cette image très forte d'un jeune qui est tué sur une banquette arrière d'une voiture. Et puis ensuite, on voit la voiture brûlée sur le parking d'une cité de Marseille, la Busserine. Et là, on commence à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Petit à petit, on comprend que cette organisation est extrêmement puissante, qu'elle a pris en main plusieurs cités marseillaises. Puis, on a une deuxième phase, qui est celle d'une diversification des activités de la DZ Mafia, avec notamment de l'extorsion de fonds, qui se développe de façon exponentielle.
Et on voit bien que maintenant, ça touche effectivement.
Et maintenant, on passe au troisième niveau.
En troisième niveau.
Pardon.
Vous dites l'importance de l'image pour ces réseaux. Cette menace sur les élus, elle est bien réelle. Ils auraient pu passer à l'acte ou c'est une forme d'intimidation. On cherche à impressionner.
Alors, la force de la mafia, c'est justement d'intimider, de faire peur. Dès qu'elle passe à l'acte, c'est une forme d'échec. Si elle est obligée d'abattre quelqu'un, ça montre d'une certaine façon son impuissance. Et en revanche, si elle arrive à imprimer la peur sur un territoire, elle a gagné la partie. Et c'est ça qui est le plus important et le plus dangereux aujourd'hui dans ce qui se passe à Alès.
Jean-Michel Vert, restez avec nous. Je voudrais qu'on entende aussi David Lisnard, donc le président de l'Association des maires de France. On entend effectivement cette stratégie de la peur qui vise directement les élus. Il n'y a plus de zone à l'abri, David Lisnard?
Non, il n'y a plus de zone à l'abri. Il n'y a pas que les villes moyennes qui sont touchées. La ruralité est touchée. Je me rappelle que j'avais alerté en 2022, quand j'étais allé dans l'Allier, je connaissais quand j'étais gamin, et où j'ai vu dans des centres-bourgs, des points de deal, etc. Il y a de plus en plus de fabrication locale aussi. On a organisé au Congrès des maires, en 2024, une grande table ronde. On avait fait venir notamment le sénateur Étienne Blanc. Et c'est ce qui a permis d'alerter l'opinion, grâce à vous, grâce aux médias, grâce à ce qu'on avait organisé, et alerter les politiques nationaux, et qui a résulté sur la loi narcotrafic, qui malheureusement n'est pas complète et parfaite, parce qu'il y a un Parlement qui transige sur beaucoup de choses, mais qui a apporté vraiment un plus avec le parquet spécialisé. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, ça touche tous les habitants. Là, on parle d'un maire, moi je suis maire, mais un maire, c'est un habitant parmi les habitants. Donc tous les points de deal, les violences, les effets collatéraux, il y a eu des morts moi, dans ma commune, tout ça, on le vit. Et là où c'est encore plus grave, c'est que là, quand on est maire, on a notre uniforme sur notre tête, tout le monde nous connaît. Donc ces mafias, elles s'installent toujours quand l'État est faible, tout le temps. C'était le cas en Sicile, c'est le cas en Amérique latine, etc. Donc de dire, on peut s'imposer au suffrage universel, on peut essayer de faire renoncer un maire. Et je veux vraiment soutenir Christophe Rivin, avec qui j'avais échangé avant l'exfiltration, quand il y avait déjà eu sa femme qui avait trouvé les balles dans son rôle, pour le soutenir, parce qu'il ne baisse pas les yeux. Et vous savez, c'est pas nouveau, la maire d'Échirolle, Amandine Desmaures, dans l'Isère, avait sa voiture incendiée par des narcotrafiquants, c'était en février dernier. En octobre 2025, l'ancien maire de Sarcelles, Patrick Haddad, lui-même était tombé dans un guet-apens. Donc on voit bien qu'il y a une volonté structurée de s'imposer à la République. Et la République, les maires, c'est la République à hauteur d'homme.
Si et on dit que ce maire d'Alès, Christophe Rivin, qui avait renforcé sa police municipale, travaillait plutôt très bien avec les autorités judiciaires contre le narcotrafic, c'est ça qui l'a exposé. Est-ce que ça veut dire, David Lisnard, que quand on est maire aujourd'hui, bah, on a plutôt intérêt à faire profil bas pour se protéger?
Non, parce qu'on tient le regard, c'est difficile. Moi je l'ai vécu sur d'autres événements quand j'ai fait fermer un établissement séparatiste, comme on dit, islamiste. J'ai vu chez des enfants, dont deux filles, et leur visage et leur nom et l'adresse avaient été diffusés sur les réseaux. Donc, mais il faut surtout pas, il faut bien sûr protéger ses proches, mais il faut surtout pas qu'on baisse les bras, parce que si nous on baisse les bras, c'est plus possible. C'est pareil pour les policiers, il faut soutenir les policiers. Quand on commence à mettre sur les réseaux des domiciles de policiers, c'est aussi grave. Quand on commence à menacer, voire à égorger, à décapiter des enseignants comme Samuel Paty ou Dominique Bernard, même si là on est sur de l'islamisme et pas sur du narcotrafic, mais les deux sont souvent liés. Donc non, il faut surtout pas se décourager, mais il est temps que l'arsenal pénal, mais au-delà de l'arsenal pénal, que la réalité de l'exécution judiciaire et policière soit à la hauteur du défi.
Mais ces maires, ils ont les moyens de lutter contre ces réseaux qui sont des réseaux très puissants, on le voit.
Alors, nous, on n'a ni le droit ni les moyens, puisqu'on n'a pas le droit de faire du judiciaire, on n'a pas le droit de faire d'actes d'enquête, mais dans la réalité, on ne cesse, moi je ne cesse dans ma commune, comme beaucoup de mes collègues, pour ceux qui ont une police municipale, c'est-à-dire 14% des communes françaises, 86% n'ont pas de police municipale, il faut toujours rappeler que c'est optionnel, la police municipale, c'est pas obligatoire. La sécurité, c'est une mission de l'État. Mais on contribue à cela, parce qu'on connaît les gens, on voit bien, on parle de la DZ Mafia sur Alès, mais il est possible, je suis pas enquêteur, mais ce soit pas directement, c'est-à-dire que de plus en plus, ils ont des sortes de proxys, comme on dit, en relation, en analyse internationale, c'est-à-dire des groupes locaux qui viennent sous l'autorité de la DZ Mafia. Donc nous, on renseigne, on met de la vidéosurveillance. Ce sont les mairies qui mettent les vidéos, qui payent la vidéo. Et les images, elles ont valeur probatoire. Donc c'est super important. On n'accepte pas que des quartiers fassent l'objet d'octroi par les dealers. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, il y a des tours où à partir de tel étage, vous devez dire qui vous êtes et avoir l'autorisation des voyous pour remonter dans les étages, voire pour accéder à certaines rues. Donc tout ça, on le combat.
Et vous vous sentez suffisamment appuyé et soutenu par l'État? Il y a quand même eu cette fois le RAID, le PNACO, ouais. le parquet spécialisé sur la criminalité organisée qui s'est saisi de l'affaire.
Je vais vous répondre très, très honnêtement, comme toujours, c'est une très bonne chose, on a des beaux services. Vous vous rendez compte qu'un service d'élite comme le RAID est intervenu pour exfiltrer de chez lui un maire, ses enfants et sa famille. C'est pas à Medellin dans les années 2000 ou à Palerme dans les années 80. C'est en France à Alès. Donc, ces services existent. Le problème, c'est au quotidien. C'est-à-dire que quand il n'y a pas l'intérêt médiatique, on se retrouve très vite démunis. Moi, je le vois quand, s'il y a un mort à cause d'un trafiquant, eh bien, on a une réaction et tant mieux. Il y a des CRS, etc. Puis deux semaines après, on n'a plus personne et on est démunis. Donc, il est temps qu'on ait une action très déterminée. Moi, je veux plus des effets de manche, des politiques nationaux qui roulent des mécaniques, des grandes déclarations, mais des choses structurées. Où sont les 30 000 places de prison qui manquent en France depuis 20 ans? On le sait tous. Il faut protéger la société. Il faut absolument s'inspirer de ce qui a été fait en Italie il y a une quarantaine d'années, qui est des regroupements de magistrats, soutenir les magistrats, qu'on empêche les trafics depuis les prisons.
Merci beaucoup.
Visiter les prisons, on sait pertinemment que les gars, ils reçoivent par drone des téléphones et ils dealent depuis leur prison.
Tout ça, il faut taper plus fort, c'est ce que vous nous dites. Merci beaucoup, David Lisner. Merci d'avoir été avec nous, maire de Cannes, président de l'Association des maires de France. Je remercie également Jean-Michel Verne qui était avec nous, journaliste, auteur de Inside DZ Mafia. C'est aux éditions Artaud. Il est 7h50. Dans un instant, le portrait du jour avec Victor Pourchet.
Un comédien emblématique qui porte plainte pour vol de voix. C'est une première.
Et puis votre rendez-vous de l'été, on continue de parcourir la France, justement à la rencontre des élus, des maires élus ou réélus aux dernières municipales. On sera ce matin à Saint-Avold, en Moselle, où le nouveau maire a rendu le stationnement désormais gratuit partout dans sa ville. A tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
7h52, c'est l'heure du bonus, le bonus RMC avec Charlène Villemer. Et c'est ce matin The Weeknd qui poursuit sa tournée en Europe.
La star canadienne s'est arrêtée à Nice pour deux dates, à l'Alliance Riviera. Hier et ce soir, trois ans après deux concerts qui avaient marqué les esprits, affichant complet pour la majorité des catégories, After Hours Till Down Tour. Depuis 2022, cette tournée s'est imposée comme la plus grande tournée R&B de l'histoire. The Weeknd a enchaîné les stades à guichets fermés en Amérique, en Australie et puis en Europe. Ce soir, à Nice, près de 40 000 fans devraient en faire la démonstration. Coup d'envoi du concert à 19h. The Weeknd, c'est le premier artiste à franchir les 5 milliards d'écoutes sur la plateforme Spotify l'an dernier, avec cette chanson notamment « Blinding Lights ».
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Le portrait du jour à 7h53, c'est avec Victor Pourchet aujourd'hui. Un monument, le comédien Denis Podalydès qui part en guerre contre l'intelligence artificielle.
Et pour partir en guerre, quoi de mieux qu'un chef de file, qu'un taulier? Parce que c'est ça, Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie Française depuis plus de 25 ans, des films par dizaines, deux Molières, quatre nominations au César. Ça fait beaucoup de distinctions, ça fait beaucoup d'or pour cet enfant bourgeois de Versailles, et un enfant pourtant... un peu crado, c'est lui-même qui le dit, fâché dans ses jeunes années avec l'hygiène du corps, mais pas avec celle de l'esprit, amoureux de la philosophie et de la sociologie. comment en aurait-il pu en être autrement quand le père du copain de jeunesse, ce n'est ni plus ni moins que Pierre Bourdieu.
D'ailleurs, on en est un peu question de philosophie dans son combat contre l'IA.
Un peu de philo et beaucoup de vol. Une chaîne YouTube, Les Voix Philosophiques, a fait pendant des mois des millions de vues avec un principe simple, des leçons de philosophie lues par Denis Podalydès, lui qui, c'est vrai, aime tant prêter sa voix à des livres audio notamment. Sauf que là, c'est saccadé, la voix est sans émotion, elle est robotique.
Et donc, ça n'est pas Podalydès.
Même pas un peu. Et ça tombe assez mal pour le voleur de timbres. La voix, ses subtilités et l'art de s'en servir, Podalydès y tient. Il en a même fait un livre. Alors, l'acteur a demandé à la justice de l'aider. Il a déposé plainte. C'est inédit, venant d'un acteur, dépôt de plainte pour délit d'hypertrucage. C'est le mot français pour deepfake. C'est-à-dire piquer la voix d'une personne sans son consentement et en trompant le public. Peine encourue, 2 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Reste à retrouver le voleur. La chaîne YouTube a depuis été supprimée. Aucun indice sur son créateur. On sait simplement quel outil d'intelligence artificielle il a utilisé. Il faudra maintenant que l'entreprise puisse retrouver sa trace numérique ou alors ce sera le silence des algos.
Podalydès hyper truqué. C'était le portrait du jour de Victor Porcher que vous retrouvez en podcast 7h55. On part en Moselle ce matin.
RMC.
Dans vos villes.
Dans vos villes, à la rencontre des maires élus ou réélus aux dernières municipales tout l'été. On fait le tour de France avec les reporters d'RMC. Et ce matin, nous sommes à Saint-Avold, en Moselle, où le stationnement est désormais gratuit partout dans toute la ville. Le retour de la voiture, première mesure prise par le nouveau maire RN, Hervé Simon. Et c'est Inès Zegloul qui l'a rencontré pour RMC.
Allô?
Oui, allô, monsieur le maire?
Oui.
Je suis en train d'arriver sur Saint-Avold, là.
Ouais.
Où est-ce qu'on se retrouve? À la mairie?
Bah oui, c'est plus simple. Le parking est gratuit.
D'accord, bon, bah on se retrouve là-bas.
Bonjour. Ça va bien?
Donc là, un peu partout autour du parking, on a des horodateurs. Ils sont bâchés. Vous avez bâché tous les horodateurs de la ville?
On a bâché tous les horodateurs de la ville. Moi, j'habite Sainta depuis longtemps. Voilà, je voyais les gens galérer. Quand on voit le prix du litre d'essence, eh ben, 1 euro, c'est 1 euro. Saint-Avold, c'était une ville hyper dynamique il y a quelques années en arrière. Donc, le but, c'est de faire revivre le centre-ville et les gens attendent que ça, en fait. Voilà, la rue commerçante. Toutes les cellules étaient occupées à une époque et là, vous voyez, ça ferme au fur et à mesure.
Il y avait quoi ici avant?
Ici, c'était un photographe. En face, c'est pareil. C'était quelqu'un qui vendait des pompes à chaleur, Yvan. On rentre en concurrence avec les grandes zones commerciales qui, eux, ont le parking gratuit. Donc, et ben, voilà, on est obligé de trouver des solutions pour...
Concrètement, en quoi ça aide?
Le stationnement gratuit? Ben oui, ils viennent plus, ils ont plus de facilité à se garer, ils n'ont pas besoin d'aller à l'horodateur. Ils voient les belles boutiques, il y a une place, et ben on se gare. Ils vont consommer, ils repartent.
Moi je suis pour, ça va dans le sens du commerce. Adrien, je suis restaurateur sur Saint-Avold.
Vous, à proximité, vous avez un parking qui est gratuit, vous avez quelques places là sur les côtés qui sont gratuits, c'est bénef pour vous.
Bien sûr, la personne, au lieu de se presser, de dire bon, j'ai qu'une heure gratuite, là elle ne se soucie pas de se dire bon, est-ce que la municipale elle va passer mettre un PV ou quoi, ok. Au moins, elle peut se consacrer à son repas ou venir boire un verre sans se dire « bon, j'ai déjà 3, 4, 5 euros à mettre dans le parking ».
Et ils consomment plus, peut-être?
Ils consomment un peu plus.
Bon, on est de retour en voiture. Ça fait quelques minutes que je tourne en rond pour trouver une place. Je l'ai enfin trouvée, mais il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de voitures garées en stationnement gratuit. Du coup, j'ai dû m'éloigner un petit peu.
Ah bah oui, moi ma fille elle est scolarisée en ville et avant on trouvait facilement une place. Là c'est impossible et c'est dommage parce qu'en fait je suis pas sûre que toutes ces voitures là soient en train de consommer dans le centre-ville.
Il y a une chose sur les frites.
Un petit peu de café.
Là pour l'instant c'est pas vos clients en fait qui s'arrêtent en voiture.
Non, pour l'instant nous on voit rien.
Voilà, 7,50€, c'est ok.
Il reste toute la journée et puis du coup il n'y a pas trop de flux. Mmh. Nous, on voit pas d'amélioration.
D'autant que la gratuité, ça a quand même un coût. On retourne en mairie.
Alors ça, c'est le compte-rendu du conseil municipal. Ça nous coûtera 52 000 euros et ça fait pas mal.
Mais on va trouver de quoi faire des économies ailleurs. Ça, c'est ce que nous assure le maire. La mesure sera pour l'instant maintenue jusqu'à la fin de l'été.
On verra par la suite.
Un reportage signé Inès Zegloul à Saint-Avold pour RMC, RMC dans vos villes. Tout l'été, vous retrouvez tous ces rendez-vous sur rmc.fr. Dans un instant, le journal de 8h avec à la une l'incendie qui fait rage toujours dans le Var. On sera sur place dès le début du journal. Et puis l'économie avec Manu Lechypre.
Et oui, qu'apprend-on dans l'interview que Sébastien Lecornu vient d'accorder à Paris Match sur le budget 2027? Je vous détaille tout ça.
On verra les premières pistes. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Bon réveil.
RMC. Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. On va vous donner dans le journal les toutes dernières informations sur ce feu très impressionnant qui continue de progresser ce matin dans le Var. Les flammes ont parcouru plus de 2500 hectares depuis hier après-midi. C'est énorme, c'est le secteur de Cotignac qui brûle et les Canadiens reprennent leur rotation là au moment où on se parle. Vous aurez aussi les toutes dernières informations dans l'affaire Jubilard en direct de Toulouse. Cédric Jubilard qui dit avoir étranglé sa femme il y a près de 6 ans. Et sur la décision attendue, la démission attendue dans la matinée de la ministre de la Transition écologique après l'adoption définitive de la loi d'urgence agricole.
C'est la région du Haut-Var qui est en proie aux flammes depuis hier après-midi.
Avec ce violent incendie qui a pris sur la commune de Pontevès avant de se propager à grande vitesse, insiste la préfecture, aux communes voisines de Cotignac, Corins, Montfort-sur-Argent aussi. Le dernier bilan des pompiers fait état ce matin de 2500 hectares parcourus au moins par les flammes. Anna Jojard, vous êtes sur place dans le secteur ce matin pour RMC. Quelles sont les toutes dernières informations ?
Eh bien, la nuit a été très compliquée. Jusqu'à 1200 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour ce feu qui a progressé très vite depuis hier après-midi. Il a parcouru plus de 800 hectares dans la nuit. Ce matin, le feu est contenu, c'est-à-dire qu'il ne progresse plus beaucoup, mais il n'est toujours pas fixé. Le travail des pompiers va donc être très important aujourd'hui. C'est ce qu'explique le commandant des pompiers du Var, Éric Groin.
Le travail d'aujourd'hui va être crucial parce que, je vous le rappelle, demain, nous avons du vent. On en aura cet après-midi, mais demain, il est beaucoup plus fort. Je ne souhaite pas avoir plusieurs feux en attente dans le département, si on a encore d'autres risques ailleurs. Donc il faut absolument qu'on travaille beaucoup sur ce feu-là pour qu'on puisse être tous disponibles pour, je l'espère, une journée calme, mais rien ne le présage.
Les moyens aériens sont en train de reprendre. J'ai vu passer un hélicoptère plusieurs fois. Il y aura aussi deux Canadair et deux avions d'âge qui seront déployés pour lutter contre l'incendie qui est désormais près de Cotignac.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle d'un feu qui a progressé à vue d'œil durant la nuit. On parlait de quelques hectares brûlés hier après-midi au moment où on l'a appris. Et on est donc ce matin à plus de 2500 hectares parcourus par les flammes parmi les 400 personnes qui ont été évacuées dans le secteur depuis hier après-midi. Je vous propose d'écouter Rudy, c'est un touriste belge qui avait loué une maison à Montfort-sur-Argent.
On a dû quitter au plus vite parce que on avait les retombées des cendres, on avait des braises et la fumée qui devenait de plus en plus chaude. Donc c'était très très vite en fait, franchement. On sentait vraiment la chaleur, les fumées devenaient vraiment chaudes quoi. Donc ça a pris vraiment une proportion très rapide quoi, ça a été très 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 vite. La gendarmerie, la police municipale, tout le monde est arrivé pour demander de quitter au plus vite parce que ça devenait vraiment incontrôlable quoi.
Voilà, les pompiers mobilisés donc dans le Var et endeuillés en Gironde, cette fois à nouveau deux sapeurs professionnels qui sont morts hier après-midi en intervenant sur un incendie près de l'aéroport de Mérignac. En fait, leur camion-citerne a été encerclé par des flammes allant jusqu'à 30 mètres de haut. C'est ce qu'explique le directeur des pompiers dans ce département de Gironde. Ouais, les pompiers qui payent un lourd tribut cet été, on y reviendra après le journal avec Eric Brocardi, le porte-parole des sapeurs-pompiers de France. D'abord, l'affaire Jubilard à 8h04, parce qu'il y a du nouveau.
Oui, depuis qu'on sait ce qu'a dit Cédric Jubilard à la justice lors d'une audition, c'était la semaine dernière, dans la foulée de ses aveux sur la disparition de son épouse il y a près de 6 ans dans le Tarn. Jean-Wilfried Forquès, vous êtes en direct ce matin de la cour d'appel de Toulouse où Cédric Jubilard a donc dit comment il avait tué son épouse.
Oui, c'est ça, Quentin. Exactement, Cédric Jubilard raconte à la magistrate ici à Toulouse que c'est une nouvelle dispute, la énième dispute sur fond de divorce. Le ton monte très rapidement, explique Cédric Jubilard. Delphine lui dit « Tu n'es qu'un toxico de merde, j'ai trouvé un homme qui vaut beaucoup mieux que toi ». Cédric Jubilard explique qu'à partir de ce moment-là, eh bien, ça l'a fait complètement vriller, ça l'a fait dégoupiller. J'ai serré son cou très fort, j'ai serré et j'ai crié « Tais-toi, tais-toi, tais-toi », je l'ai dit 20, 30, 50 fois. Et puis ensuite, eh bien, je l'ai prise sur mon épaule, je l'ai mise dans le coffre de la voiture et je suis allé l'enterrer à proximité de ce champ. Je me souvenais notamment de ce monticule de compost. Voilà pour la version officielle livrée ici même à Toulouse par Cédric Jubilard devant la magistrate. Bien sûr, une seule question d'actualité qui brûle sur toutes les lèvres. Y a-t-il eu préméditation ? A-t-il prémédité son geste ? Les magistrats ont quelques mois pour réfléchir et répondre à cette question puisque le procès en appel a été reporté au premier semestre 2027.
Jean-Wilfried Forquès en direct de Toulouse ce matin pour RMC. C'est une atteinte grave à la République. Voilà ce que dit le ministre de la Justice Gérald Darmanin à propos des menaces qui pèsent sur le maire d'Alès dans le Gard. On en parle ce matin sur RMC. Pourquoi ? Parce qu'il a été exfiltré de chez lui par le RAID. C'était dans la nuit de lundi à mardi. Car sous la menace des narcotrafiquants de la DZ Mafia, le nouveau parquet national anticriminalité organisé s'est saisi de l'enquête. Et alors dans ce contexte, le Premier ministre Sébastien Lecornu dresse ce matin dans le magazine Paris Match un tout premier bilan des tests anti-drogue qu'il avait promis le mois dernier pour les ministres et les hauts fonctionnaires. Il annonce que certains membres de cabinet ministériel ont été écartés après des tests qui se sont révélés être positifs. Il ne dit pas combien, ni combien de ministres d'ailleurs ont été dépistés, mais il promet que ces tests vont continuer.
Et ce matin, c'est la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, qui va claquer la porte.
Dans la foulée de l'adoption définitive, hier, avec l'ultime vote au Sénat du fameux projet de loi d'urgence agricole qui réintroduit deux pesticides interdits jusque-là, Monique Barbu y était opposée. Et c'est donc pour ça qu'elle a prévu de présenter sa démission avant le Conseil des ministres qui aura lieu dans la matinée. Lucas Laubert avec Romain Cluzel, vous en savez un petit peu plus sur ce choix de la ministre.
Sa décision est mûrement réfléchie. L'autorisation de l'acétamipride, même sous condition, était une ligne rouge. Alors face à son entourage hier soir, Monique Barbu tranche « Je n'ai pas d'autre option que de remettre ma démission ». C'est ce qu'elle va faire ce matin à l'Élysée. Pourtant, elle n'exclut pas totalement que le président réussisse à la convaincre de rester en poste. « Si ma démission est refusée, ça dépend de ce qui est dit et comment c'est dit », explique-t-elle. Quoi qu'il en soit, cette annonce est un très mauvais signal, estime une députée macroniste proche de Monique Barbu. Un selon elle, qui désespère de voir la 8e ministre de l'écologie faire ses valises depuis 2017. Ce départ probable n'est pas une surprise, estiment plusieurs membres du Bloc central. Pour eux, Monique Barbu paye son manque politique au sein du gouvernement. Interrogé par Paris Match aujourd'hui, le Premier ministre Sébastien Lecornu assure que Monique Barbu a sa confiance, mais il estime que les membres du gouvernement doivent trouver le point d'équilibre entre les convictions personnelles qu'ils portent et les compromis qu'ils doivent trouver.
Et alors dans la dernière ligne droite, avant les vacances politiques, députés et sénateurs ont définitivement validé 6 textes. Hier, certains emblématiques d'ailleurs, on en a beaucoup parlé là ces derniers mois sur RMC, comme celui sur le sport professionnel, encadrant la répartition des droits TV notamment, celui sur la sécurité du quotidien, c'est la fameuse loi Riposte qui durcit les sanctions en cas de rodéo urbain ou de free party, ou celui sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux qui seront donc interdits aux moins de 15 ans à partir du mois de septembre. C'est une première en Europe, chez nous, donc en France. Bérangère Bocquillon, ça mérite quand même de s'y pencher un instant avec vous, chef du service société RMC. Qu'est-ce qui va changer donc sur les réseaux en septembre ?
Si vous vous inscrivez pour la première fois sur un réseau social, vous allez devoir prouver que vous avez plus de 15 ans. Pour ça, le réseau social vous proposera de passer par un tiers de confiance qui pourra par exemple être France Connect. Mais si vous êtes déjà inscrit, le réseau social aura jusqu'au 1er janvier pour vérifier votre âge et supprimera votre compte si vous avez moins de 15 ans. Le système est prêt et c'est très sécurisé, assure-t-on au ministère du Numérique. Les plateformes ne sauront ni votre âge ni votre nom. Elles sauront simplement que vous avez plus ou moins de 15 ans.
Alors ce sont tous les réseaux qui sont concernés, TikTok, Snapchat notamment. Bérangère, qu'est-ce qui se passera si le système est contourné ?
Si ce sont des moins de 15 ans qui trichent, pas de sanctions prévues, ça existera forcément, déplore-t-on au ministère du Numérique. Des mineurs réussissent bien à s'acheter de l'alcool malgré l'interdiction. Mais si ce sont les réseaux sociaux qui ne respectent pas leurs obligations, la Commission européenne pourra les sanctionner par de fortes amendes, jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires.
Et alors sur le Tour de France, on assiste à une bataille passionnante pour le podium entre deux jeunes de 19 et 22 ans. Ça semble jouer pour les deux premières places, le maillot jaune Tadej Pogacar qui a l'air intouchable, le belge Remco Evenepoel qui a conforté sa deuxième place en remportant hier le contre-la-montre au bord du lac Léman. Et donc derrière, on a cette bataille entre notre Français, Paul Sexas, qui a repris un petit peu de temps hier au Mexicain Isaac Del Toro, Romain Asselin.
Oui, Paul Sexas n'est plus qu'à 20 secondes du podium après sa solide quatrième place sur le contre-la-montre.
Je me suis battu toute la journée et chaque jour nous rapproche un peu plus de Paris, donc 5 étapes et 5 jours pour se battre. Donc je suis prêt plus que jamais à me battre.
Un très bon signal pour son directeur sportif, Julien Jourdi.
Ces débuts de troisième semaine commencent parfaitement bien pour Paul, c'est ce qu'on avait imaginé. On sait que les difficultés vont monter crescendo jusqu'à samedi. L'étape honnêtement, samedi elle est monstrueuse, donc tout peut se passer. Il y a vraiment une très belle bataille à livrer.
Face à un Isaac Del Toro qui ne désarme pas, le Mexicain a terminé terminé cinquième du chrono.
On essaie toujours d'être dans la position de celui qui reprend du temps aux autres, mais en me refaisant le film du chrono, je peux être satisfait de ma performance.
Dans son équipe UAE, il n'y a pas que le maillot jaune de Pogacar qui compte. Le directeur sportif Machin Fernandez suit de très près cette lutte pour le podium et le maillot blanc entre Del Toro et Sexas.
C'est incroyable que ces deux jeunes se battent pour le podium. Incroyable niveau, incroyable coureur, incroyable attitude, incroyable caractère. Bravo à eux, ils ont l'esprit de la gagne.
Isaac Del Toro a déjà remporté une étape sur ce tour. Paul Sexas devra peut-être limiter pour le dépasser au classement.
Cette 17e étape aujourd'hui qui fera 174 km entre Chambéry et Voiron en passant par les massifs des Bauges et de la Chartreuse, qui repartira d'ailleurs cette étape sans l'Allemand Florian Lipowitz, victime d'une chute hier sur le contre-la-montre. Ça fait deux abandons en deux étapes sur des chutes dans des virages.
Étape du jour à suivre évidemment sur RMC, l'intégral tour tout l'après-midi sur RMC. 8h11, beaucoup de messages, de réactions ce matin. Vous les parents, les grands-parents peut-être, sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, Victor.
Et on a d'abord Lilou qui nous dit: je trouve ça triste qu'en France on soit obligé de créer une loi pour interdire les jeunes de moins de 15 ans sur les réseaux sociaux. Le problème ne se poserait pas si les parents faisaient leur travail. Elle s'inclut, hein. C'est à nous, parents, de jouer notre rôle d'éducateur. Vous êtes nombreux aussi à proposer vos solutions. On a par exemple Alicia qui nous dit: c'est une question de temps, les technologies vont s'adapter. Pareil pour Céline qui nous dit: j'aimerais que ce soit les fournisseurs, les opérateurs, les fournisseurs d'accès à Internet qui puissent dans les téléphones directement inclure la possibilité ou non d'aller sur les réseaux sociaux. Et puis Thierry nous dit: c'est interdit de dépasser 130 sur l'autoroute et pourtant les parents dépassent, nous aussi il faut qu'on donne l'exemple.
Oui, donc est-ce que ça va être contourné, c'est aussi toute la question. Et est-ce que ça suffit? Notre invité tout à l'heure nous disait: sans éducation, interdire ça ne sert à rien. On en débat ensemble, on vous attend 32-16 si ça vous fait réagir. 06-12 424 424 pour nous écrire sur WhatsApp. 8h12
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, l'économie avec Manu Le Chypre et déjà les pistes du budget 2027 révélées par Sébastien Lecornu, Premier ministre, dans le magazine Paris Match. Il sera notamment question de revoir le remboursement de certains médicaments. Vous allez voir tous les détails avec Manu Le Chypre. Et puis un été en enfer pour les pompiers. Ça brûle toujours dans le Var ce matin. Plus de 2500 hectares partis en cendres et plusieurs communes évacuées. En Gironde, ce sont deux pompiers qui ont perdu la vie. Les pompiers qui payent un lourd tribut. Cet été, on en parle avec le porte-parole des sapeurs-pompiers de France, Eric Brocardi. C'est dans quelques secondes sur RMC. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
8h16, vous êtes bien sur RMC, RMC Story. Ils étaient pompiers professionnels en poste au centre de secours de Saint-Médard-en-Jalles. C'est tout près de Bordeaux. Deux soldats du feu sont morts hier près de l'aéroport de Mérignac. Leur camion-citerne piégé par des flammes hautes de 20 à 30 mètres. Le ministre de l'Intérieur sera sur place aujourd'hui. Nous sommes avec le lieutenant-colonel Eric Brocardi. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de la Fédération nationale des pompiers de France. Voici donc la réalité que vivent vos collègues. Trois morts déjà dans les rangs des pompiers depuis le début de l'été.
Ouais, c'est bon.
Lieutenant-colonel Brocardi.
Bonjour. Oui.
Bonjour à vous. Je disais que les pompiers payent un très lourd tribut cet été. Trois morts déjà dans vos rangs depuis le début de l'été.
Oui, un trop lourd tribut, comme vous le dites. C'est déjà trois de trop. La facture est déjà trop lourde. Nous pensons évidemment aux familles. Nous pensons aux sapeurs-pompiers de Saint-Médard, de Savoie, qui sont toujours dans le deuil. Donc le sujet aujourd'hui, c'est malgré tout ce qu'il se passe, malgré les conséquences très dramatiques de ces incendies, nous pesons un lourd fardeau. Et ce fardeau-là, nous continuons à l'avoir tout en poursuivant la lutte contre les incendies. Et vous voyez, dans le Var, ça ne s'arrête pas. Vous voyez qu'effectivement aussi, en Gironde, le feu a été extrêmement virulent. On va dire poussant jusqu'à l'engagement total et à l'abnégation totale des sapeurs-pompiers, au point que nous en perdons deux encore aujourd'hui, malheureusement.
Est-ce que vous avez des éléments sur ces deux pompiers? Est-ce qu'on connaît leur âge, leur niveau d'expérience?
Et pour l'instant, c'est le niveau d'expérience n'est pas à remettre en question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aussi il y a une part d'intimité à préserver vis-à-vis des familles. Il y a déjà quelques éléments qui circulent sur les réseaux sociaux, évidemment. Mais de mon point de vue et de mon statut, je préfère pour l'instant laisser toujours la voix officielle du service départemental d'incendie et de secours de Gironde de faire le nécessaire pour vous donner les renseignements. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le courage des sapeurs-pompiers continue et de mise, que les sapeurs-pompiers de France et l'œuvre des pupilles seront aux côtés des familles de nos deux sapeurs-pompiers perdus dramatiquement dans cet incendie. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de continuer malgré tout à être sur le terrain et de pouvoir poursuivre. Ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est la vigilance de l'ensemble des concitoyens pour éviter de nouveaux feux, de nouveaux départs, pouvant mettre en difficulté les sapeurs-pompiers, voire mettre en péril leur vie.
Lieutenant-colonel, est-ce que vous pouvez essayer de vous rapprocher peut-être de votre téléphone? On vous entend un tout petit peu loin. Juste peut-être un mot des circonstances dans lesquelles ces deux pompiers ont péri. On est en Gironde, tout près de l'aéroport de Mérignac. On n'est pas en pleine forêt. En réalité, on est près d'une zone avec des entrepôts, des parkings. C'était une zone à risque maximal.
C'était une zone à risque maximal. Effectivement, comme vous le voyez, Mérignac est connu pour son aéroport avec des enjeux infrastructurels, avec une pression opérationnelle liée justement à la circulation aéronautique, avec un modèle périurbain qui se veut aujourd'hui très contraignant, avec une interface entre la forêt et le monde industriel qui est extrêmement proche. Donc encore aujourd'hui, c'est un sujet que l'on porte, la Fédération Nationale, c'est de continuer à essayer d'améliorer les conditions, on va dire, d'aménagement des territoires pour éviter que demain, nous soyons soumis à la fois à une pression infrastructurelle et en même temps une pression liée à notre activité opérationnelle qui est de sauver, secourir et protéger à la fois les habitants, les biens et l'environnement.
C'est finalement pas le plus gros incendie, en tout cas pas le plus spectaculaire, à part qu'il était tout proche de l'aéroport, mais il a été maîtrisé assez vite. On voit que dans le Var, les pompiers ont là-bas combattu toute la nuit, mais ça veut dire aussi que le moindre petit feu de broussaille peut prendre de l'ampleur très vite et que les pompiers prennent des risques dans tous les feux aujourd'hui.
C'est très très juste ce que vous dites. Vous voyez bien que ça a l'air d'un feu assez anodin. Vous voyez bien que ça a l'air d'être un feu assez classique comme on a l'habitude de couleur. Pourtant, ils sont extrêmement piégeux. Et vous l'avez bien signalé, et vous le voyez au travers des bulletins météorologiques, les niveaux de sécheresse sont assez importants. La strate végétative, c'est-à-dire toute la surface au-dessus du sol, est extrêmement asséchée, ce qui produit véritablement des conditions extrêmes en termes de propagation du sinistre et crée des encerclements potentiels pour les sapeurs-pompiers dès lors que les flammes commencent à s'embraser avec une végétation qui est extrêmement dense. Donc aujourd'hui, ce sont les conséquences, on va dire, des inversions, des changements de température, des changements de saison, des changements, on va dire, très virulents de climat qui font qu'aujourd'hui, on est sur des phases où la lutte contre les feux de forêt a changé véritablement notre manière dont on doit pouvoir les approcher, de continuer à progresser dans notre stratégie, bien que la stratégie française est reconnue mondialement, bien que nous ayons un socle aujourd'hui qui est solide, qui est celui promu par l'entente valable, qui est une école des feux de forêt au sud de la France, qui permet d'avoir une stratégie commune qui s'avère toujours efficace, mais sur lesquels nous devons continuer à progresser.
Merci beaucoup, merci lieutenant-colonel Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. Merci d'être avec nous et un hommage sera rendu aujourd'hui à ces deux soldats du feu qui ont péri hier en Gironde. Il est 8h21, c'est l'heure de l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec Emmanuel Le Chypre, on parle du budget. Le budget 2027, oui, c'est déjà à l'ordre du jour avec le Premier ministre Sébastien Lecornu qui dévoile des pistes d'économie. C'est ce matin dans Paris Match.
Oui, la France est surendettée, a trop de déficits, ce qui la rend vulnérable aux chocs internationaux. Vous l'avez compris, le redressement des comptes publics est une priorité absolue, nous dit le Premier ministre. Alors, ça ne se fera pas, dit-il, par des augmentations d'impôts, ni par la création de nouveaux impôts. Alors attention, il y aura quand même quelques petites subtilités. On n'exclut pas, par exemple, des coups de rabot sur des niches fiscales jugées un peu inutiles. Donc si vous supprimez des niches fiscales, par définition, vous augmentez les impôts. On pense aux 10% d'abattement des retraités, par exemple. Et puis, il est peu probable que les contributions censées être exceptionnelles, je vous le rappelle, qui étaient demandées aux revenus et aux entreprises, disparaissent. Donc, si on n'augmente pas les impôts, ça veut dire qu'il va falloir réduire massivement les dépenses. Et là, on est rassuré, pas question de toucher aux dépenses d'investissement, la défense, la recherche, l'éducation, le nucléaire, l'énergie, le spatial, l'intelligence artificielle ou encore le quantique. Mais vous allez voir que ça laisse quand même beaucoup de marge, puisque les dépenses d'avenir sur un budget de 1 800 milliards de dépenses publiques environ, ne représente que 8%.
Alors, où est-ce qu'on taille dans les dépenses? Est-ce qu'il y a déjà des pistes de réduction de dépenses?
Alors, on taille dans les dépenses de fonctionnement. Mais alors là, on nous promet effectivement une révolution dans la manière de dépenser, des dépenses plus efficaces. Mais les pistes qu'on a sont assez maigres. Il y a un intéressant bonus-malus budgétaire entre les ministères pour les inciter à investir dans le numérique et l'intelligence artificielle qui sont censés faire gagner en productivité. Et puis, il y a aussi des réductions de dépenses sociales en perspective. Sont privilégiées notamment le moindre remboursement des médicaments anciens, la lutte contre la surconsommation de soins, mais on est encore loin du compte. Et pour les grandes masses, eh bien Sébastien Lecornu ne reprend aucune des propositions formulées dans le rapport qui vient d'être publié sur les finances publiques, rapport commandé à 4 économistes de renom qui, eux, proposait la désindexation des prestations sociales, voire une allée blanche, c'est-à-dire on gèle toute l'augmentation de toutes les prestations sociales. On peut pas dire que cette interview prépare vraiment les Français aux efforts.
Ouais, le Premier ministre veut un budget pour 2027. Oui. Encore faudra-t-il trouver une majorité pour le voter ou à minima pour ne pas le censurer. Ça, c'est une autre histoire.
Et il dit, s'il n'y a pas de budget 2027, eh bien la première année d'exercice du prochain président, prévient-il, nous dit, eh ben, ce sera déjà une année de perdu quasiment.
On termine d'un mot sur les chiffres de l'énergie, comme tous les jours.
Alors, petit répit pour le gazole et le samplon. 2,13 pour le gazole, 2,02 pour le samplon. C'est à peu près les mêmes prix qu'hier, mais c'est quand même 11 centimes de hausse pour le gazole, 6 centimes pour le samplon depuis une semaine. Sur le pétrole, ça se tend un peu plus. On est à $92 le baril, ce qui reste en dessous des niveaux de mars et mai, mais c'est quand même une forte augmentation en quelques jours. Et puis surtout, le sujet qu'il faut surveiller de très très près, mesdames et messieurs, c'est le gaz. On approche 60 euros le mégawattheure. Le pic pendant cette crise, c'était 62 euros. Et on était à 30 avant la crise. Merci. Donc attention au prix du gaz.
Merci Emmanuel. Le Chypre, allez, avant le journal de 8h30, on se détend un peu, c'est le meilleur d'Arnaud de Manche.
Raphaël Glucksmann dévoile ses propositions pour 2027, Arnaud, dans un livre programme. Le titre, Nous avons encore envie.
Oui, nous avons encore envie. On dirait un message de relance d'un Versaillais sur Tinder. Après 4 jours sans réponse, Maud, nous avons encore envie. Le livre, il fait 200 pages, mais on peut le synthétiser en une phrase. Et si on faisait une gauche de droite, mais sympa. Alors, est-ce qu'il va y aller à la présidentielle, Glucksmann? J'ai entendu, il se donne 3 mois. La semaine dernière, il a d'ailleurs fait tous les gros plateaux, le 20h de TF1, Quotidien, machin, patin, couffin, pour dire juste, écoutez, monsieur Boulot, pour la présidentielle, je sais pas, faut voir, on verra dans 3 mois. Quand t'as le 20h de TF1, c'est le moment de l'annoncer, ta candidature. Enfin, c'est pas le genre d'endroit où tu vas tous les 15 jours. Enfin, je sais pas, Alain Bauer dans le face-à-face.
Oh, merci. Oui.
Pourquoi il va là-bas pour dire qu'il hésite? Ça fait quand même pas envie.
Non.
Tu veux rencontrer les candidats à la présidentielle les moins chauds de ta région? Envoie Glucksmann au 8-12-2 et découvre une vague envie de faire des trucs. Bon, peut-être avec des gens. Glucksmann au 8-12-12 pour des moments bof avec des gens que bon. Il est pas motivé, quoi. En fait, Glucksmann, tu sens que tu le fais un peu chier à être moins intelligent que lui. Voyez, est-ce qu'il va s'abaisser à nous gouverner? C'est pas dit. Et alors, attendez, tiens, j'ai une blague de feu. Alors, accrochez-vous.
Une blague de feu.
Il annonce
la blague de feu.
Cette indécision de Glucksmann, Léa, vous verriez dans quel état ça la met. Allez.
Oh,
champion d'Europe.
Arnaud Demanche à retrouver en podcast quand vous voulez sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Dans un instant, la météo. Il va encore faire chaud dans le sud et on surveille évidemment les incendies. Ce sera la une du journal de 8h30, cet incendie dans le Var qui a ravagé 2500 hectares mais qui est désormais contenu. Et puis c'est une autre des conséquences de la canicule à répétition et de la sécheresse que nous vivons. Les maisons qui fissurent, une maison sur deux est désormais concernée en France. Alors comment prévenir le risque? Comment identifier si votre maison est à risque? On sera avec un expert pour vous éclairer. Et vous pouvez venir témoigner au 3216 ou sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. À tout de suite. Il est 8h30.
RMC, Apolline Matin.
Un nouveau journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Plus de 2500 hectares parcourus par les flammes en moins de 24 heures dans le secteur de Cotignac dans le Var. Un incendie d'une violence exceptionnelle qui est ce matin contenu. Après la multiplication des sécheresses, de plus en plus de maisons menacées par les mouvements du sol et des fissures importantes. Le doute plane-t-il de nouveau sur les performances du Tour de France ? Les derniers contrôles antidopage interrogent le peloton.
Le Var brûle encore, mais le feu est désormais contenu.
Plus de 2500 hectares ont brûlé depuis hier et menacent de nombreuses communes, Cotignac, Corrence, d'importants moyens mobilisés, 1200 pompiers épaulés de Canadair. État des lieux ce matin du directeur des pompiers dans le Var, Éric Groin.
La nuit ne fut pas calme puisque le feu a progressé encore toute la nuit. C'était compliqué, ça a été compliqué pour les gens au sol. Il est pour l'instant contenu dans son enveloppe, qu'il progresse plus beaucoup. Néanmoins, nous avons encore de nombreux points chauds, de nombreuses flammes encore dans certains endroits, en espérant que les températures de cet après-midi ne nous fassent pas repartir trop de reprises. C'est pour ça qu'on travaille bien ce matin. Je l'espère une journée calme, mais rien ne le présage.
2300 foyers, toujours privés d'électricité ce matin. 400 habitants ont dû être évacués ces dernières heures, ont dormi dans des salles des fêtes, notamment à Carcès. L'angoisse pour ces habitants qui ont vu les flammes s'approcher de leur maison, Célestin Bourgia.
En quelques minutes, la situation se complique autour de la maison de Nicole. Elle habite à Sillon-la-Cascade, au milieu d'un bois.
Quand je suis allée au bout de mon terrain, j'ai vu que la fumée était vraiment très très proche.
Elle reçoit alors un message de la préfecture sur son téléphone. Il faut évacuer au plus vite.
L'instinct de survie nous envahit et on se dit, on s'en va. Je suis partie en pleurant parce que j'ai mes poules là-bas, donc j'ai tout ouvert, en espérant qu'elles puissent s'échapper. Le ventre serré, je reste impuissante. On ne sait pas si la maison a volé.
Tout juste le temps d'arroser les murs de sa maison avant d'être accueillie chez des amis. Dans le village voisin de Cotignac, les Canadairs passent au-dessus de la tête de Philippe. Les flammes se rapprochent de sa maison où il est alors confiné.
Je suis ému parce que quand vous voyez cette fumée en haut des collines qui monte, qui arrive en haut de votre maison, puis se dire comment on va retrouver ce bastion qui est tellement magnifique, je n'ose même pas imaginer quoi. C'est terrible pour nous.
Certaines habitations ont été détruites. Le maire de Cotignac, Jean-Pierre Véran, se sent impuissant.
Je ne sais pas comment on va s'en sortir parce que les pompiers, au niveau des accessibilités, c'est dur et on croise des doigts pour que le vent ne souffle pas trop pour que ça baisse.
Un camping et un monastère ont également été évacués dans ce village.
Et deux maisons ont brûlé à Pontevès et plus d'une centaine sauvées. Les pompiers endeuillés en Gironde, deux sapeurs, ont perdu la vie hier sur un incendie près de l'aéroport de Mérignac. Ils se trouvaient à bord d'un camion citerne piégé par les flammes.
La sécheresse qui met les habitations à rude épreuve.
Des maisons qui se fissurent, des murs qui bougent. En France, près d'un logement sur deux exposé au retrait et gonflement des argiles. Un phénomène accentué par les fortes chaleurs et les sécheresses. Direction la Sarthe où Rachel Sadonine a rencontré une habitante touchée par ces dégâts.
Des centaines de fissures lacèrent les murs de la maison de Solveig, visibles de l'extérieur comme de l'intérieur.
Je viens d'en découvrir que je n'avais pas encore vu. C'est arrivé là dans les dernières périodes de canicule qu'on a eues dans les semaines précédentes. Là. Voilà, il y en a une qui part juste au-dessus de la fenêtre. Là.
Les premières sont apparues il y a 6 ans, quelques mois seulement, après que Solveig et son mari aient racheté la maison.
C'est angoissant. On l'a acheté pour terminer notre vie. Moi, j'ai des petits-enfants. On a envie d'y être tous ensemble. Et ces fissures, c'est un petit peu une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête quand même.
Hein. La retraitée n'a pas les 150 000 euros nécessaires à la restauration. Elle espère donc une indemnisation de la part de son assurance, car l'état de catastrophe naturelle a été reconnu sur sa commune. Mais ce n'est pas le cas des 600 sinistrés qu'accompagne l'association Urgence Maison Fissurée. Dominique Goldstein, sa vice-présidente.
Entre sécheresse et pluie intense, les maisons, elles bougent. Hein. Une chose dont on est sûr, c'est le dérèglement climatique. Malheureusement, ça ne va pas s'arrêter. Ceux qui ne le voient pas encore, ça va arriver cet automne.
L'association s'inquiète aussi de voir de nouvelles constructions autorisées sur des sols argileux. Autant de maisons qui, selon Dominique Goldstein, finiront elles aussi un jour par se fissurer.
11 millions de maisons à risque de ces fissures dues à la chaleur, à la canicule, à répétition. Ça va coûter très très cher. Alors comment identifier si votre maison est à risque? Je poserai la question à notre invité après le journal. Et venez témoigner si vous êtes concerné. On vous attend au 32-16.
Des membres de cabinets ministériels ou des hauts fonctionnaires testés positifs à la drogue. Ils ont été écartés, annonce le Premier ministre Sébastien Lecornu ce matin dans un entretien au Paris Match.
Les réseaux sociaux interdits aux ados de moins de 15 ans, ce sera effectif à la rentrée.
Et c'est une première en Europe. Le Parlement a adopté hier cette proposition de loi. Sa mise en œuvre va se dérouler en deux étapes. Les comptes Facebook, TikTok ou encore Instagram existants seront concernés par cette interdiction dès le 1er janvier. Et dès la rentrée pour les nouveaux comptes, une avancée majeur pour Emmanuel Macron, mais pour maître Yann Maël Larère, spécialiste du numérique, cela ne remplacera pas l'éducation aux réseaux sociaux.
On perd vraiment notre temps et notre énergie à vouloir systématiquement interdire tous les comportements qu'on considère comme nouveaux, déviants. Il y a quelques années, le problème, c'était les jeux vidéo. Avant encore, c'était la télévision. Et je sais pas comment vont faire les jeunes à 16 ans s'ils ont jamais approché un réseau social par le passé. C'est aussi une éducation progressive. Le sujet de base, c'est la responsabilité des parents. Et s'il y a une difficulté, c'est peut-être parce qu'on n'a pas traité ce sujet-là depuis trop longtemps.
Et le Parlement adopte définitivement la loi Riposte. Rêve illégal, rodéo urbain, protoxyde d'azote. Le gouvernement promet des réponses immédiates aux troubles à l'ordre public. Un texte salué par la majorité, vivement dénoncé par la gauche et les défenseurs des libertés.
Le Tour de France est le peloton qui s'interroge sur le message envoyé par les autorités antidopage.
Le maillot jaune, Pogacar et Vingegaard ont été ciblés par des contrôles antidopage nocturnes avant une nouvelle vague de tests. Lundi, une séquence Kevin Morand qui interpelle le peloton.
Oui, l'ITA, l'organisme indépendant en charge de l'antidopage dans le cyclisme, a déployé un gros dispositif lundi. Toutes les équipes ont reçu la visite en fin de journée de contrôleurs.
J'en ai eu un à 21h30. Pour l'anecdote, on était en train de jouer à la pétanque.
Baptiste Westrofer, coureur de la Loto Intermarché.
On a eu 3 contrôles aléatoires durant le tour. On doit être aussi conscient, voilà, qu'il faut avoir une éthique et faire tout pour rendre notre sport clean. Pour moi, c'est aucun problème.
Une vague de contrôle qui fait suite à ceux subis en pleine nuit par Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard le week-end dernier, autorisé par un juge des libertés de la détention. Sur cette plage horaire qu'en cas de soupçon grave et spécifique, le consultant RMC Jérôme Pinault déplore la communication autour de ces contrôles.
En gros, c'est on a contrôlé tout le monde, mais ces deux équipes-là sont suspectes. Donc dans la tête des gens qui sont sur le bord de la route, ces deux coureurs-là ont triché ou sont potentiellement des tricheurs. Et ça, c'est pas bon.
Marc Madio, le président de la Groupama FDJ United, s'interroge aussi.
Est-ce qu'il y avait vraiment des raisons concordantes qui font que, ou est-ce qu'on a voulu faire un exemple en disant, vous voyez, on est capable de contrôler même les meilleurs. Si c'est le cas, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas poussé le bouchon jusqu'à en contrôler une dizaine.
Les coureurs sont contrôlés à l'improviste au moins une fois par semaine sur le Tour de France et quotidiennement pour se présenter sur le podium.
Et victoire hier d'Evenepoel sur le contre-la-montre entre Evian Les Bains et Thonon Les Bains devant Pogacar. Le Français Paul Sexas termine 4e, place à la 17e étape entre Chambéry et Voiron aujourd'hui. Intégral Tour dès 14h sur RMC.
On termine avec le Quintet, c'est à Enghien aujourd'hui à 18h30.
Et le pronostic de la Dream Team, leur favori le 9, Montana Kaluma, leur outsider et le 10, Mercurdel.
C'était le journal de Clément Gouit, vous êtes bien sur RMC, il est 8h38. On retourne au 32-16, c'est l'INSEE qui est avec nous en direct. Bonjour l'INSEE.
Et bonjour.
Et bienvenue, l'INSEE, vous êtes dans le Gard.
C'est bien ça, exactement.
C'est l'interdiction aux réseaux sociaux qui vous fait réagir, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Votée hier au Parlement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne mesure?
Alors oui, c'est une très bonne mesure, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ce qui me paraît insensé, c'est qu'on soit obligé aujourd'hui de faire des lois, alors que c'est une éducation des parents à gérer leurs enfants sur les réseaux sociaux, sur les portables, sur tout ça, quoi.
Vous avez des enfants, vous, l'INSEE?
Eh oui. Bon, elles sont encore un peu péquelettes, mais bon, à 8 et 9 ans, ça commence déjà à me demander à accéder à tout ce qui est la technologie et tout ça, ce qui est normal.
Vous sentez déjà une forme de pression, d'intérêt? Pourquoi? Parce qu'il y a déjà les petits camarades qui ont accès à des téléphones?
Ah ben alors, c'est ça le plus grave, c'est effectivement, il y a des enfants de leur âge qui ont déjà des téléphones, ce qui me paraît insensé parce que nous accompagnons nos parents, nos enfants à l'école, je trouve pas que ce soit nécessaire qu'ils en aient besoin, donc forcément elles sont hyper demandeuses et je pense que c'est à moi de leur expliquer que pour l'instant elles en ont pas, essentiellement l'accès, oui. Pour l'instant c'est pas nécessaire essentiellement. Quoi. Voilà.
Pour vous c'est d'abord la responsabilité des parents d'être conscients des risques?
Mais bien sûr. Et on le voit bien. Il y a une agressivité qui ressort après ces réseaux sociaux. Vous m'excuserez, mais voilà. On voit bien que les réseaux sociaux, c'est très mauvais pour eux. Ça influence dans le négatif. Et moi, je ne veux absolument pas qu'elles aient accès à ça pour l'instant. Alors, je ne veux pas les mettre dans une bulle non plus. Je veux leur expliquer les choses. Mais c'est à moi de gérer tout ça. Quoi. Voilà. Ouais.
Mais ça ne va pas aider, malgré tout, cette interdiction, ne serait-ce que pour envoyer un message aux parents qui pourraient être un peu plus flexibles que vous sur ces questions-là, un message aux parents, et puis plus facile peut-être de l'expliquer aux enfants. Est-ce que ça ne peut pas aider?
Alors, si, je suis tout à fait d'accord, ça va les aider, forcément. Mais c'est quand même dommage d'être obligé de mettre des lois pour que les parents comprennent que c'est dangereux pour eux, quoi. Voilà. Et là, ce matin, la dame disait que c'était aux enseignants de l'école d'expliquer aux enfants que les réseaux sociaux étaient dangereux. Non, je suis désolée, c'est aux parents de faire leur boulot, quoi.
Aux parents, et voilà. Elle nous disait surtout, elle disait un peu comme vous, que c'est surtout une question d'éducation, éducation des enfants, mais éducation aussi des parents aux risques posés par les écrans pour les plus jeunes et des réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre appel, l'INSEE 3216, si ça vous fait réagir, le débat continue. Les 8h40 sur RMC, dans un instant, on va retourner dans la forêt de Fontainebleau, deux semaines après cet incendie gigantesque. Les pompiers sont toujours à l'œuvre pour surveiller et éteindre d'éventuelles reprises. Un incendie qui a déjà des conséquences sur la saison touristique là-bas, vous l'imaginez, ce sera le choix de la rédaction. Et puis les maisons qui fissurent avec la canicule, c'est une autre conséquence de la sécheresse, ça concerne désormais une maison sur deux. On en parle avec notre invité, puis vous pouvez témoigner là aussi au 32-16. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h43 et vous êtes sur RMC et RMC Story. C'est l'heure du choix de la rédaction. Aujourd'hui, nous retournons en forêt de Fontainebleau, deux semaines après le terrible incendie qui a ravagé la forêt. Les pompiers sont toujours présents. Ils surveillent et éteignent les éventuelles reprises de feu. Bonjour Alexandre Thibault. Vous êtes retourné sur place. L'incendie a démarré il y a deux semaines, a brûlé plus de 2000 hectares. C'est 10% de la surface du massif. Et même s'il n'est toujours pas éteint, cet incendie a déjà des conséquences sur le tourisme dans cette forêt de Fontainebleau, qui habituellement accueille 15 à 20 millions de visiteurs par an. Les professionnels de la région déplorent déjà un gros manque à gagner.
Oui, la salle du restaurant de Corinne Soyer est bien vide.
C'est un drame, on a personne.
Cette saison, elle est vraiment morte là. On va travailler, mais un tout petit peu.
Son établissement porte bien son nom, la forêt, située sur la départementale qui traverse les arbres. Les flammes se sont arrêtées à 900 mètres de sa terrasse. Il y a encore une odeur de fumée. La gérante a renoncé à embaucher des saisonniers pour l'été.
Normalement, je dirais du personnel pour faire la terrasse. J'irais, mais là, c'est pas la peine, il n'y aurait personne. J'aurais pas de touristes, ma saison est fichue, donc voilà, pas plus de 4.
Pas plus de 4 employés, mais heureusement, un peu de solidarité. Une dizaine de clients sont venus manger chez elle. Un soutien moral, mais pas financier. Il va bien falloir faire les comptes.
J'ai pas calculé et je veux pas le calculer tout de suite, je pense. Voilà. Il va falloir sortir à peu près 10 000 euros et on n'a pas de rentrée d'argent. Mais si j'avais pas de trésorerie, je pense que je pourrais fermer là.
Alors, en temps normal, après avoir mangé, on peut aussi faire du vélo dans la forêt de Fontainebleau. Activité également à l'arrêt pour Christophe Hirtzel, qui en loue depuis 6 mois.
Sur une journée complète, on loue une trentaine de vélos. Ce week-end, on a loué peut-être 6 vélos. Quoi. On a eu le droit à tout, quoi. Les intempéries, les feux de forêt.
Il cherche de nouveaux itinéraires à proposer à ses clients, clients qui sont pour la majorité des touristes et des grimpeurs.
Les grimpeurs, justement, on sait la forêt de Fontainebleau réputée pour l'escalade, sauf qu'elle est totalement fermée hein, pour le moment, donc leur activité est aussi à l'arrêt, j'imagine.
Oui, pour tous, grimpeurs et aussi moniteurs. Nicolas Grière est l'un d'eux depuis 20 ans.
Donc là, pour l'instant, on est au chômage technique sur cette partie. Ouais.
Les mousquetons et baudriers restent rangés dans les caisses de son garage. Le mois de juillet aurait dû être le plus rentable de l'année, mais pour lui, l'enjeu est ailleurs.
Pour l'instant, le plus important, ça manque la forêt, de prendre soin de la forêt, mettre en place les moyens et sauver notre terrain de jeu. Sans terrain de jeu, on n'a plus rien. Ici, il faut que notre activité soit en stand-by pendant 2 mois. Elle sera en stand-by pendant 2 mois et je pense que c'est mieux. Et faire en sorte que ça n'arrive plus. Parce que si tous les ans, on perd 10%, dans 10 ans, il ne reste plus grand-chose.
Éviter de nouveaux incendies alors que déjà la moitié des réservations de location d'hébergement ont été annulées pour le mois de juillet. Chiffre de l'Office du tourisme du pays de Fontainebleau. Son président Laurent Roussel a un mot d'ordre.
C'est le moment de venir découvrir que le pays de Fontainebleau, ça n'est pas que la forêt. C'est un magnifique château. Un patrimoine historique, on a énormément de belles maisons, de très belles églises qui sont millénaires. Il y a plein d'autres choses à faire à Fontainebleau. Et dès que ce sera possible, on réouvrira la forêt.
Réouverture partielle prévue pour le moment ce dimanche.
Le reportage en forêt de Fontainebleau d'Alexandre Thibault. Dans un instant, sur RMC, on parle d'une autre des conséquences de cette chaleur et de ces canicules à répétition, et notamment en conséquence de la sécheresse. Ce sont les maisons qui fissurent, une maison sur deux concernée. Comment prévenir le risque? Est-ce qu'on peut être assuré pour ça? Un expert pour nous répondre dans un instant, c'est Laurent Arnaud, il est responsable technique du domaine du bâtiment au CEREMA. C'est le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et la aménagement. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
8h48 sur RMC et RMC Story. Ce sont des millions de maisons qui sont menacées et peut-être la vôtre avec les canicules qui se répètent et cette sécheresse record. Les maisons fissurent. Cette menace concerne désormais une maison sur deux. C'est colossal. Ça fait 11 millions de maisons. Bonjour Laurent Arnaud.
Oui, bonjour.
Bienvenue à vous et merci d'être en direct avec nous. Vous êtes responsable technique du domaine du bâtiment au CEREMA. C'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Vous êtes donc expert de ce type de risque. Comment on explique d'abord très simplement à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ce phénomène de fissure ?
Ben, c'est un phénomène qui existe et qui est lié effectivement à la sécheresse. Il faut imaginer que les couches d'argile que l'on a sous les maisons sont en fait des feuillets et au milieu de ces feuillets, il y a de l'eau. Et avec un temps de sécheresse, l'eau s'évapore et en fait, les feuillets vont se rapprocher et le terrain va tasser. Et quand il y a des tassements différentiels sous une maison, ben, ça peut créer des contraintes à l'intérieur de la structure et une fissure dans la maison. Comme vous l'avez dit, plus de la moitié des maisons individuelles et des bâtiments sont faiblement, enfin ou modérément ou fortement exposés au risque RGA, mais toutes n'ont pas les mêmes fondations. Et donc il faut croiser l'exposition que l'on a liée au temps avec les fondations des maisons pour savoir si on est très concerné ou modérément concerné.
RGA, c'est ce qu'on appelle le retrait gonflement des argiles. Ce sont ces fissures dont on parle. Si on ne fait rien, ça peut être fatal pour la maison ?
Oui, oui, il y a certaines maisons pour lesquelles on va jusqu'à la ruine, effectivement, de l'ouvrage. Mais il existe des solutions pour limiter ce risque-là, bien entendu.
Alors, comment on fait pour savoir si sa maison est concernée ? Et si on est concerné, quels sont vos conseils ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il y a des manières de prévenir ce risque ?
Alors, la première chose à faire, c'est effectivement d'observer sa maison et dès l'apparition d'une première fissure, effectivement, de réagir et de ne rien faire, bien entendu. Alors, l'action, elle est à plusieurs niveaux. Allez voir sur le site d'exposition au risque, le BRGM, qui est un établissement public, émet une carte de prévention pour montrer si on est dans une zone qui est modérément ou fortement exposée. Donc là, vous arrivez à vous localiser. Ensuite, si vous êtes dans une zone comme ça, il faut arriver à gérer l'eau. L'eau notamment de pluie. On sait très bien que toutes les maisons ne sont pas équipées d'écoulement centralisé pour récupérer les eaux de pluie, ça c'est un premier point. Il faut s'intéresser à l'étanchéité de son réseau d'eau usée pour savoir s'il n'y a pas de fuite, parce que ce sont des phénomènes qui peuvent créer la disparité entre le teneur en eau dans le sol. Donc ça, ce sont des réactions simples que l'on peut mettre en œuvre pour éviter ou pour limiter les conséquences du RGA.
Il y a des premiers signes qui doivent nous alerter.
Les premiers signes, c'est la fissuration. Vous voyez apparaître des fissurations dans vos murs. Au départ, la fissure, elle est extrêmement fine. C'est de l'ordre du dixième de millimètre. Et si vous ne faites rien, ça peut aller jusqu'à plusieurs centimètres. Et c'est la raison pour laquelle il faut à la fois faire l'analyse et mener des actions de limitation des conséquences, voire de prévention si vous savez que vous êtes fortement exposé.
Alors restez avec nous Laurent Arnaud, on va aller au 32-16. C'est Norberto qui nous a appelé, vous êtes dans les Deux-Sèvres. Norberto, vous êtes concerné chez vous par ce risque de fissure ? Est-ce que Norberto est avec nous ? Oui ?
Oui, allô ?
Oui, vous nous entendez ?
Allô ?
Vous êtes avec nous Norberto depuis les Deux-Sèvres. Est-ce que vous êtes concerné chez vous par ce risque de fissure ?
Moi non, mais il y a des maisons ici, oui.
Ouais. Vous l'avez observé, il y a des fissures chez vos voisins dans le quartier ?
Dans le quartier, non, parce que j'habitais dans un...
Alors je crois qu'on manque un peu de réseau, malheureusement. Norberto, c'est en train de couper, on va essayer de rétablir la liaison. Je reviens vers vous, Laurent Arnaud. Est-ce qu'on peut s'assurer contre ce risque ?
Alors oui, il y a une assurance, bien entendu, mais l'augmentation est extrêmement forte ces dernières années du coût lié au RG1. Le point de bascule qui est donné par la Caisse centrale de réassurance, qui est 2015, indique qu'on a une augmentation très très forte, et aujourd'hui les risques RG1 est le premier risque en termes de coût d'indemnisation des sinistres. Et ils évaluent à 1,5 milliard par an les coûts pour les 5 prochaines années pour ce risque-là.
Donc ça va être colossal. Est-ce qu'il y a des aides pour ceux qui ne sont pas assurés, qui doivent faire des travaux? On voit que les coûts sont très importants. Est-ce qu'on a pris la mesure du problème? Est-ce que l'État aide ce type de travaux?
Alors, l'État mène un grand programme, et le CEREMA accompagne ce programme pour améliorer le diagnostic et savoir quelles sont les maisons qui vont être impactées les premières. Donc, c'est un dispositif d'aide à la prévention du phénomène. Et donc là, vous pouvez vous rapprocher des DDT et des DREAL pour vous inscrire dans cette démarche si vous le souhaitez. Et puis, il y a 11 départements qui sont des départements test, et il y a vocation à aller plus loin. D'un autre côté, je prends notre exemple à nous, le CEREMA, nous travaillons en partenariat avec Covéa, qui sont des assureurs, pour instrumenter un certain nombre de maisons à l'aide d'un dispositif qui a été mis au point par le CEREMA, qui s'appelle MAC, Maison Confortée par Humidification, pour limiter les nuisances quand maison commence à se fissurer.
On envoie vos auditeurs consulter peut-être votre... Merci beaucoup, Laurent Arnaud. On va inviter les auditeurs à consulter votre site éventuellement pour avoir toutes ces infos. Une maison sur deux potentiellement concernée par ce risque de fissure. Merci beaucoup, Laurent Arnaud, responsable technique au CEREMA. C'est l'heure des GG, des grandes gueules, dans un instant avec Olivier Truchot. Bonjour, Olivier.
Salut, Sébastien. Bonjour à tous. Les grandes gueules se préparent à débattre de l'actualité. On va revenir sur ce qu'on a appris, l'exfiltration de ce maire, le maire d'Alès, parce qu'il est menacé par les narcotrafiquants. On vient de franchir une nouvelle étape dans la guerre que mène notamment la DZ Mafia. Alors là, c'est la DZ Mafia nouvelle génération contre l'État et contre la puissance publique. Est-ce que c'est une guerre qu'on est en train de perdre? C'est la question qu'on posera aux grandes gueules, qu'on vous pose au 32-16. Appelez-nous dès 9h sur RMC, RMC Story. On vous attend.
Les grandes gueules, c'est juste après le journal de 9h sur RMC et RMC Story. Bonne journée.